Vous écoutez
RMC.
RMC.
La solidité défensive de cette équipe, qui est une arme nouvelle à son arc.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait qu'il cache la cause de. Il cache la cause. Il cause la cache.
Comme il y a Jimmy dans l'After Paris là-dessus, juste pour savoir si. Il a fini de sécher ses larmes du départ de Messi, Neymar et tous les tocards qu'il aimait bien l'année dernière.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Avec ce soir, Walid Acharchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Simon Lutin, salut Simon.
Salut Nico, salut les gars, bonsoir tout le monde.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Au programme ce soir de Génération After, avec vous au 32-16. Dans un instant, on lance le derby. Lille lance demain soir, derby pour la Ligue des Champions. Un point d'écart de club ambitieux. Quel club d'ailleurs a le plus besoin de la C1 la saison prochaine? Et quel est celui, tiens, qui a le projet selon vous le plus solide pour briller en Europe? Celui qui rendrait le plus de service au football français en se qualifiant pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Jean Baumel sera avec nous dans un instant. Avis de Walid. La suffisance de Tchouaméni en bleu le dérange. Et puis à 21h, deuxième épisode de notre feuilleton OM-PSG. C'est dans 4 jours. Ce match est-il aussi important pour Paris que pour Marseille? D'ailleurs, on aura un invité, un homme qui a porté un des nombreux footballeurs qui a porté les deux tuniques. Peter Luxin sera avec nous, lui qui a joué des OM-PSG hein, sous ses deux maillots. Quel est son plus grand souvenir? Est-ce plus dur de venir au Vélodrome en tant que Parisien ou en tant que Marseillais au Parc des Princes? Plein de questions à lui poser. 21h30, c'est l'avis de Jimmy. Après les réticences de Rennes de lâcher trop de joueurs pour les Jeux Olympiques. Jimmy, tu penses que c'est trop facile de taper sur les clubs français? Et le quiz de l'after à partir de 21h45 by Jérôme Thomas. D'ailleurs, inscrivez-vous au 732-16, vous envoyez quiz par SMS. Quiz par SMS 732-16 pour remporter un bomber shot.
Jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
On va essayer d'aller chercher le back-to-back sur le quiz. Hein. T'as gagné la semaine dernière?
Ouais, la semaine dernière.
T'étais là?
Non, j'étais pas là, c'est pour ça que t'as gagné.
Ah bon?
Bah oui.
Ah, c'est pour ça que je me disais que c'était plus facile. Kevin Diaz, sans toi, ouais, il a un peu plus de mal, c'était ce que je me disais. Ouais.
On est de retour.
Ouais, d'accord.
T'inquiète pas.
Bon, hier, j'ai trouvé Bafé Gomis, donc ça pourrait faire le tripit.
Ah oui?
Ouais.
Le tripit.
Il a raison, cette expression.
Oh, c'est. Ah, t'as un peu changé. Mais il y a encore un an, tu m'aurais allumé.
Ouais, mais j'ai là, évolué. Mais mec, j'ai évolué.
Ah, t'as évolué.
Écoute, la vérité, c'est que je suis à fond dans l'NBA depuis le début de la saison.
Ouais.
C'est Wemby.
J'ai retrouvé.
C'est
l'effet Wemby. Évidemment, c'est l'effet Wembanyama.
Ah, d'accord.
Et puis, j'ai retrouvé mes amours et mes anglicismes. D'accord. Aucun problème avec ça maintenant.
Ok, très bien.
D'accord?
Ok. Ça me va. Pas du tout ça.
Et puis, à 22h, l'after avec Thibaut Jeangrande. Salut, Thibaut.
Salut tout le monde. Stéphane Guy sera là, justement. Il y aura également Daniel ce soir de retour. Et on parlera de ce choc entre l'OM et le Paris Saint-Germain dans 3 jours. On continue notre semaine spéciale. Est-ce que c'est vraiment un match important pour le Paris Saint-Germain? On en a débattu un peu dans le podcast After Paris avec Jimmy, avec Daniel. Ce soir, on continue le débat. On parlera également de la rivalité entre Lille et Lens. On sera avec un auteur, l'auteur de Histoire des derbies Lens-Lille, qui sera en direct dans l'after. Ce sera le premier match de notre week-end de Ligue 1 demain. Et puis on reviendra bien sûr sur l'avis de Stéphane, les JO, les clubs français doivent libérer les joueurs. Voilà. Rendez-vous à 22h.
C'est fort.
Je crois qu'il est d'accord, ouais.
Pas vraiment. Il ouais, y a vraiment une vraie alchimie entre Jimmy et Stéphane sur ce débat-là. Ils sont vraiment d'accord les deux.
Tu vas voir qu'on va s'en rapprocher nos positions. Quand il m'aura écouté, ouais, à 22h30, il dira.
Il changera.
En fait, j'avais un avis, mais j'ai écouté Jimmy tout à l'heure et il est pas tard.
Ouais.
Il est pas tard surtout.
C'est ton objectif.
Ouais. Merci à Thibaut, à 22h, hein, fort. Il arrive en plein 10 km à venir faire un teasing de.
Pourquoi?
De l'after.
Pas du tout. Je ne sais vraiment pas ce qu'il te veut dire ça.
À tout à l'heure, mon cher Thibaut. Pour l'after. Ça vous épate? Vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Direct Studio, l'application sur RMC Sport pour envoyer vos commentaires. Et puis, bien sûr, la chaîne YouTube. Nous sommes en vidéo depuis maintenant quasiment 4 mois. Vous inscrivez à @after-foot pour vous abonner, pour commenter, pour nous voir également sur votre téléphone ou sur votre télé. Jean Baumel est avec nous. Bonsoir, Gibo. Pas encore, bonjour, visiblement.
Jimmy. Ah, il est là.
Salut, Gibo.
Salut, Gibo.
Bonsoir.
Salut,
Gibo. J'ai donné tout, non? Salut, Simon, Gibo. Walid, Nico, Jimmy. Tous les auditeurs, bonsoir à tous.
Bonsoir mon cher Gibo. Demain soir, c'est ton moment dans ta saison, ton deuxième moment. Ton derby à toi, Lille-Lens. Gros derby encore plus excitant quand on regarde le classement. Je rappelle quand même, Lille 4e, 43 points. Lens 6e, 42 points. Derby Toi, tu l'appelles comme ça, derby de la Ligue des Champions.
Ben écoute, c'est peut-être le derby le plus important pour les deux équipes. Tu peux même imaginer un truc de dingue. C'est d'avoir les deux qui sont en Ligue des Champions, puisque tout est possible, hein, vu comment c'est serré entre Lens qui est 6e, 42 points, et Monaco 3e, même Brest 2e, 47 points, donc 5 points d'écart entre le 2e et le 5e. Tout est possible, et c'est vrai qu'il y a un enjeu. Bah, on parle toujours de la suprématie régionale dans un derby, mais là on sent vraiment que c'est au-dessus en termes d'enjeu. Même Benjamin André en parlait tout à l'heure en conférence de presse, voilà, il raisonnait comptablement, il est encore plus important que d'habitude. Donc c'est vrai que voilà, peut-être que le perdant eh bien dira peut-être adieu à la Ligue des Champions. C'est peut-être ce match-là qui fera la bascule. Peut-être Lille, parce que si c'est Lille, ça ferait 4 points d'avance sur les voisins lensois. Et sinon, bah, c'est Lens qui repasserait devant. On peut avoir un match nul aussi, comme au match aller, hein, qui était un bon match. Ouais, c'est un match très, très alléchant qui nous attend demain à
guichet fermé. En
à guichet fermé, voilà, ouais, pas loin de 49 000 spectateurs, et dont 1 000 lensois, faut le préciser, parce qu'au match aller, les supporters lillois n'ont pas pu se déplacer suite à une décision préfectorale.
Qui a le plus besoin de la C1? Qui a le projet le plus solide pour être ambitieux en Europe? Ou en tout cas, celui qui peut le mieux nous représenter, nous, football français. Bien sûr, vous nous appelez au 32-16 pour venir en débat avec nous, supporters lensois et supporters lillois. Oui, Gibo.
Nico, concernant les compos et les groupes, hein, on a appris donc cet après-midi en cours de conférence de presse, parce que c'était pas prévu, parce qu'en fait, on avait les habituels absents, d'ailleurs, les trois nouvelles recrues de l'hiver dernier, Fernandez, Moraes et puis Ilic. Mais il avait oublié de donner un nom important, et en pleine conférence de presse, en plein milieu, Paulo Fonseca nous dit, j'ai oublié de vous dire, il manque Angel Gomes. Et là, on a
tous
c'est pas pareil, parce qu'Angel Gomes, c'est cette saison, franchement, c'est très important, notamment dans son nouveau système en 4-3-3. Donc ouais, c'est un coup dur. Et du côté lensois, c'est Jonathan Grady. Alors s'y attendait un petit peu, parce qu'on l'a vu s'entraîner à part mercredi matin lors de l'entraînement ouvert au public devant 5000 supporters, hein. C'est, il aurait pu avoir 10 000, 15 000, mais il y avait que 5000 places à Avion dans le stade juste à côté de la Gaillette. Machado, on pensait le revoir, mais c'est trop juste. Et puis Kouchanov, lui, est suspendu. Donc en défense centrale, il y aura le choix soit de mettre Aguilar ou Aïdara de l'autre côté, avec Medina et Danso.
Et Leny Yoro sera là, alors?
Oui, pas de souci. En forme, il y avait un petit virus et tout va bien. Ouais, c'est la question qu'on s'était posée. Et il a balayé rapidement en disant non, il n'y a pas de souci, il est opérationnel.
Et sur Angel Gomes, Gibo, c'est Aston Villa qui arrive rapidement. Il sera de retour.
Et Marseille. Trois semaines.
Il y a Marseille vendredi en plus, ouais, c'est vrai.
Trois semaines d'absence.
Ah oui, donc tu vas louper toute cette séquence de match. Quoi.
Ah ouais, parce que là, Lille, tu l'as dit, demain, c'est le derby. Tu as la semaine prochaine, vendredi soir, Lille-Marseille. Tu enchaînes avec Aston Villa. Et après, c'est Monaco.
Ouais, la séquence de match, elle est énorme.
Non, il y a Strasbourg, Aston Villa, le retour et un déplacement à Monaco.
Bon, avec toutes ces infos, messieurs, qui vous semble déjà le mieux lancé dans ce sprint? Tu vois qui, toi, Walid? Finir. Lance devant Lille ou l'inverse?
Moi, je vois Lille déterminé devant Lens, mais sincèrement, pas avec énormément de conviction. C'est très très dur parce que Lille va jouer là une grosse partie de la fin de saison avec ces deux matchs contre Lens et contre Marseille à la maison. Et derrière, il y a Monaco après Aston Villa, et sur ces trois rendez-vous-là, on va savoir véritablement ce qu'a Lille dans le ventre. Mais globalement, ça vaut pour beaucoup d'équipes. Ça vaut pour Marseille, ça vaut pour Brest aussi, ça vaut pour Lens. Moi, j'ai envie de te répondre. Lille, mais Lens sur la fin de saison, il y a un gros coup à jouer, parce qu'il y a plus d'Europe, et puis il y a finalement ces trois rendez-vous à l'extérieur. Ils vont aller à Rennes, ils vont aller à Marseille, ils vont aller à Lille. Mais si on sort de ces trois déplacements-là, il y a un calendrier qui est plutôt abordable. Donc
t'as le Havre notamment à domicile.
Oui, t'as le Havre. Je crois que tu joues Metz, tu joues Clermont.
Lorient. Donc,
globalement, si tu arrives à bien manœuvrer ces déplacements, qui vont pas être simples, hein, Marseille, Lille et Rennes, tu vas avoir tu peux tirer ton épingle du jeu. Donc là, à première vue, je te dirais Lille par rapport à la dynamique, par rapport à la cohérence, mais sincèrement, d'une courte tête, hein, y a pas un gros écart dans mon esprit.
Et puis il faut faire attention au calendrier, les matchs ils sont pas joués, surtout que bon, les présumées petites équipes, elles vont jouer leur survie. Il faut faire attention à la façon dont ils vont préparer ces rencontres, les gros qui arrivent en favoris et les autres qui jouent leur survie. Là où je rejoins Walid, c'est que Lille t'as quand même une vraie montée en puissance. Ils ont raté leur début de saison et ils ont repris un petit peu le dessus. Tu nous avais demandé, Nico, de jouer au jeu des pronostics, tu sais, nos prévisions pour la fin de saison. Moi, je les avais mis sur le le podium. Il y a une vraie montée en puissance. Là où en face, à Lens, j'ai l'impression que c'est un peu plus les montagnes russes. Je trouve que Lens est trop dépendante de des performances. J'ai l'impression que tout simplement, quand Sotoka et Danso sont pas bons, bah, Lens gagne pas, quoi. Tout simplement, c'est un peu plus erratique qu'un Lille dont l'effectif me paraît un peu plus solide.
Il y a un secteur défensif qui est moins bon à Lens sur les dernières semaines. Ouais, mais ça leur fait du mal.
Dans le dernier match, c'est cata. Enfin, ouais. Les erreurs individuelles contre Nice, même, ça fait très mal. Alors, c'est vrai que ce match n'est pas révélateur de la saison. Mais
tu rajoutes contre Monaco, Gibo, où le match, tu le perds en donnant.
Oui.
Donc sur ce type de match-là, si Lens, et en plus tu nous rappelles les blessures et les absences dans ce secteur-là.
Face au gros Lens, ils ont pas fait de grosses perfs cette saison. Hein.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais sur Lille, moi franchement, si tu me dis quel est le meilleur joueur de Lille cette saison, je te réponds Angel Gomez. Et là, il va manquer 3 semaines des matchs décisifs.
Moi, je dirais Chevalier.
Oui, c'est vrai que le meilleur est excellent.
Mais joueur de champ, t'as raison.
Dans le cœur du jeu, Angel Gomez, c'est avec ou sans lui, c'est vraiment pas la même équipe. Et là, tu le perds à un moment très important de la saison où tu vas devoir enchaîner. Il y a aussi, c'est quand même une belle carotte quand tu arrives en quart de finale de Conference League. Tu vas jouer à Aston Villa, qui est en pleine bourre en première ligue. C'est une affiche prestigieuse, etc. Ça va leur bouffer un peu d'énergie, les Lillois. Cet enchaînement-là, va falloir voir comment ils le négocient.
C'est ça, moi je suis d'accord avec toi.
Il peut y avoir une dynamique, même si ce match d'avant-trêve, là, des Lensois, si. Le match de demain, en fait, pour Lens, il va être déterminant. C'est-à-dire que juste avant la trêve, ils ont quand même cassé la dynamique avec ce. Moi, je ne les attendais pas chuter contre les Niçois. Là, si tu rechutes demain à Lille, les écarts vont se faire. Oui, mais il ne faudrait pas multiplier les cadeaux.
C'est trop compliqué. Sincèrement, quand on voit que Lille est mené 2-0 contre Rennes, je ne veux pas dire contre le cours du jeu, mais ils ont des occasions, ils reviennent à deux partout. Le match contre Brest, je les avais trouvés un peu mieux que Brest en première mi-temps.
Sur la régularité de la saison, Lille.
Mais c'est une régularité. C'est sur un fil.
Mais par exemple, Aston Villa, il va devoir mettre son équipe type pour les deux matchs. Il faisait tourner lors des parce que les adversaires étaient beaucoup plus faibles en groupe et lors du huitième de finale contre Stonegrass. Mais et aujourd'hui, tu vois que ça repose uniquement sur David pour marquer des buts. Hein, il a 15 buts quand tu redescends. T'es à 4 buts pour Yazidche, donc voilà, c'est aussi je pense que David, tu seras obligé de l'aligner tout le temps. Alors après, il est jamais blessé, il est capable d'enchaîner, ça c'est pas un problème, mais voilà, c'est aussi il y a une part de risque aussi à lui faire enchaîner pas mal de matchs.
Quand Nico dit que c'est plus régulier Lille. Mais t'as raison d'insister sur le fait que Lille, ils vont commencer leur aventure européenne maintenant. Là contre Aston Villa, contrairement à Lens qui a dû puiser depuis septembre
et qui va être libéré
dans leurs ressources et qui sur les 8 derniers matchs eux vont être libérés.
Ils ont laissé du gaz, je pense, même mentalement sur ce début de saison. Lille, les Lensois, je pense qu'ils ont laissé de l'influx et ils vont peut-être le payer en fin de saison.
Être dernier à la 5e journée et être dans le coup pour une place en Ligue des Champions au minimum l'Europe, c'est quand même. Ah, c'est franchement mentalement c'est costaud parce que franchement dans le début de saison tu te dis voilà, ils vont faire une Ligue des Champions qui a été plus que correct avec 8 points, hein. Je rappelle que c'est le même nombre de points que le PSG et qu'ils sont pas passés en 8e de finale, mais être 6e, être vraiment dans le coup,
un point
du 4e qui joue le barrage de Ligue des Champions.
Si Lens s'impose demain soir, c'est un énorme coup.
Très gros match.
Et un élément très important, parce qu'on en a parlé en conférence de presse, c'est quelque chose dont on fait pas souvent référence, mais Lille à domicile, c'est un truc de fou. Cette saison, c'est une seule défaite, c'était contre Reims, le 26 septembre, mais depuis août 2022, c'est qu'une seule défaite, c'est contre Reims. Depuis Paulo Fonseca est à la tête de cette équipe de Lille, il n'a connu que 3 défaites. Alors une très 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 dure, hein, contre le PSG avec 7 buts encaissés. Derrière, il y avait eu la défaite contre Nice, donc c'était fin août 2022. Et après, il y a eu ce 2-1 en faveur des Rémois. Pierre-Montroy, c'est très costaud, hein, les Lillois.
Et Rennes mené 2-0 à la 84e.
Exactement. Et après, tu sens même qu'ils sont capables de.
Gibo, tu restes avec nous dans un instant. Tiens, on les appelle au 32-16. Norman. Je pose une question un peu provoque, mais quand même, dans l'intérêt du football français, de son ranking UEFA, que vous préférez quoi, Lille ou Lens en Ligue des Champions? Si c'est l'un des deux, appelez-nous également pour en débattre au 32-16. Vous écoutez Génération After CRMC, il est 20h15. On revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin, avec Olivier Dacharchour, on est ensemble jusqu'à 22h, c'est Génération After. On lance ce soir le derby Lille-Lens, hein, demain. Ce sera d'ailleurs en direct sur RMC, débriefé aussi dans l'After.
Il m'excite ce derby, moi.
Mais moi j'adore ça, moi j'adore ce derby. ce Lille-Lens. Alors certains diront oui, on préfère à Lens que l'ambiance, ouais, les couleurs,
oui,
tout ça.
Oui,
attention demain, Gibo est avec nous, quasiment 50 000 personnes, ça va être le feu. Je vous rappelle également.
T'en as parlé avec passion pendant la pub, c'est dommage que tu ne sois pas intervenu dans le débat.
Moi j'aime ça. Je suis là pour mettre en lumière les amis. Je vous rappelle également que c'est le retour du coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Dès que vous entendez ce signal-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16. Et je vous rappelle que vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit 50 000 euros. Donc envoyez coffre au 732-16. L'alerte, je le précise, peut tomber à tout moment pendant l'émission, même pendant la pub. Soyez à l'écoute d'RMC. Alors Gibo est toujours avec nous, bien sûr. J'ai posé une question qui peut agacer peut-être certains supporters lensois ou lillois. Il peut paraître un peu méprisante. Quel est dans l'intérêt du foot français très mal formulé. Dans l'intérêt du foot français, Lens ou Lille, quel club préférez-vous, les amis? D'abord, j'accueille Normal, 32-16.
Elle est longue la question quand même.
Bah, elle est claire maintenant.
En gros, on veut qui entre
qui on préfère,
qui a le projet Lens, le plus solide,
voilà,
pour ambitieux, pour représenter la France en Ligue des Champions, si c'est l'un ou l'autre. D'abord, j'accueille Norman, le 32-16, supporter lensois. Salut Norman.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans Génération After. Comment tu prends ma question?
Elle est simple à répondre. Hein. Lens, est-ce qu'il y a autre
chose? Bon. Ah, c'est normal de répondre ça.
Excellent. Pas mal, excellent. Encore une fois. Bien, Walid.
Bien. Il n'y a pas de condescendance, encore une fois.
Bon, toi, tu as forcément envie d'y regoûter. Hein. Tu as aimé.
Bien sûr qu'on a aimé. Et puis en plus, on va essayer d'être objectif de seconde. Mais Lens a joué le jeu à fond. Cette équipe nous a fait vibrer. Je pense pas que les supporters de Lens. Elle prend 8 points. Elle n'a pas été ridicule. Moi, je trouve que. Voilà, c'est un bon représentant des clubs français. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas le jeu parce qu'ils estiment que le plus important c'est le championnat.
On va pas en Ligue des Champions, Norman, quand même. Pas en Ligue des Champions.
Il y a beaucoup d'équipes, elles devraient dire qu'elles font ça parce que quand on prend 0 points, par exemple, pendant toute une période, non, il vaut mieux dire qu'on a essayé de jouer le championnat. Mais Lens, ça a été, je trouve, avec un jeu ambitieux, avec un stade plein, une vraie ferveur populaire. Bien sûr qu'on a envie d'y goûter et objectivement, je pense que Lens est une équipe qui peut apporter pour le coefficient UEFA, en tout cas plus que beaucoup d'autres équipes qui ont joué la Ligue des Champions ces 10 dernières.
C'est vrai qu'ils ont pris 8 points, on le rappelle, en phase de groupe cette saison.
C'est comme le PSG.
Gibo, toi tu préfères Lens ou Lille?
Ah, vous voulez
demain. Allez, vas-y.
Et demain je vais. Non, je peux pas. Je peux pas.
Gibo, tu es pour qui? Vas-y.
Papa ou maman?
Non, non, mais
moi je sais pour qui il est.
Franchement, aujourd'hui, moi c'est simple. Les deux méritent. Moi j'ai envie d'avoir l'embarras du choix des matchs, les gars, la saison prochaine.
Les deux en Ligue des Champions, tu vois. Madrid, le mercredi à Dortmund.
Non mais c'est une question qui est super compliquée parce que Lille a fait 8 participations. Lille, et c'est vrai, plus souvent en Ligue des Champions, c'est depuis l'an 2000 parce qu'ils
sont sortis de la poule la dernière fois, Gibo.
Ils ont joué Chelsea, c'était avec Gourvenec, qui est d'ailleurs un championnat compliqué, mais qui a réussi quand même à mettre Lille en 8e de finale. Et Lens, on a l'impression que on retrouve le Lens de fin 90 début 2000, parce que certes l'année dernière ils n'ont pas été champions, mais ça joue à pas grand chose. Ils font une campagne de Ligue des Champions qui est très bonne, comme ils l'ont fait par le passé. Alors certes ils en ont moins, mais on a l'impression de retrouver un Lens aussi puissant. Enfin, il n'y avait pas le PSG qui était aussi puissant. Alors on va dire que c'est un Lens qui compte aujourd'hui, qui doit être européen. Moi, le Lens des années fin 90, début 2000, j'ai l'impression de le retrouver aujourd'hui, même si il y a des plus grosses équipes, parce que Lens faisait partie à cette époque-là des gros clubs. Là, Lens est parti, peut prétendre régulièrement à faire partie du top 5.
Top 5, enfin, Simon. Lens, ouais, ou Lille?
Lille. J'exagère peut-être top 5 parce qu'il y a des budgets beaucoup plus forts Nice, avec Lyon qui sont notamment Lyon qui sont derrière, ou Marseille. Mais Lens devrait être régulièrement en Coupe d'Europe comme Lille. Voilà, c'est l'idée.
Après, c'est toujours un crève-cœur parce que t'as envie de voir Bollard en Ligue des Champions. On l'avait dit avant le début de la saison. Moi, je pense que dans un Bollard, quand t'as une équipe qui se qualifie pour la Ligue des Champions à Lens, les grands soirs à Bollard, je pense que tu peux taper n'importe qui.
C'est plus sexy Lens avec des champions.
Bah, Arsenal, c'est quand même le match qui nous a émerveillé.
Justement, si tu me demandes de choisir, je te dis Lille parce que je pense qu'ils ont les reins un tout petit peu plus solides. Djibo rappelait que ils sont régulièrement dans le. Je crois c'est 9 ou 10 top 5 depuis l'an 2000 quand même. C'est régulier, on s'est habitué à aller voir. J'ai l'impression que dans le recrutement, c'est un petit peu moins la loterie que ce que Lens fait, même s'il y a beaucoup de réussite côté lensois. Je préfère la politique de recrutement de Lille. Les prospects qui viennent, qui progressent et qui s'en vont après. On a vu Léao, il y a Jonathan David, Zegrova. Moi, j'aime bien la
quand même 2-3
on a vu des ratés, il y en a partout
pour rebondir sur ce que dit Simon. Je pense que c'est plus vital pour ça m'attire pas plus les deux, franchement. Moi, j'ai envie d'avoir la même réponse de Suisse que Gibault, les deux. Moi, j'adore le public lensois, j'ai adoré ce qu'a proposé Lens en Ligue des Champions cette saison, même s'ils ont pas réussi à sortir de la poule. Lille, ils ont une culture européenne, là ils le prouvent, ils sont encore en quart de finale de Conférence League, mais oui. Lille, s'ils sont pas en Ligue des Champions,
c'est compliqué non plus d'y arriver, hein.
Oui, mais moi après
ça aurait été un scandale de pas être en quart de finale.
Tout le monde l'a pas fait, Gibault. Oui,
c'est vrai.
Ils vont aller en finale, en plus, Gibault.
On verra.
Ah, si tu passes à Aston Villa, c'est ouvert après.
Hein. Ouais, faut aller faire cette Fener en demi.
Il y a Fener Olympiakos aussi, ouais. Donc.
Bref, moi je regardais en préparant l'émission, Ismaili, Yazidche, Ounas, fin de contrat cet été. Dans un an, Cabela, Umtiti, Angel Gomez, Jonathan David, Lenny Yoro. C'est-à-dire que si tu vas pas en Ligue des Champions, sans compter l'avenir de Paulo Fonseca, si Fonseca ne va pas en Ligue des Champions, est-ce qu'il va rester à Lille ou pas? Moi, je pense que s'ils sont pas en Ligue des Champions, il y a de grandes chances qu'ils s'en aillent. Donc, tu te dis que s'ils arrivent pas à accrocher le top 4, Lille, la saison prochaine risque d'être beaucoup plus compliquée que pour Lens, qui s'est bien structuré, qui a verrouillé tout le monde. Alors, il y a une incertitude aussi, peut-être, sur l'avenir de Francaise.
Non, mais c'est quoi là? Non, mais tu rajoutes sur Lille, tu rajoutes la dette aussi.
En plus, financièrement, c'est pas un club, voilà, on sait que
Olivier Létang
a
dit à de nombreuses
reprises qu'il a récupéré une situation compliquée après Gérard Lopez, etc.
Non, mais Jimmy, c'est quoi la question? C'est qui on a le plus besoin ou qui on a envie de voir performer?
Ah, c'est pas pareil, hein.
Qui a le plus de chances de performer?
C'est deux questions différentes. Si tu me poses la question, si c'est la première question, je suis d'accord avec toi. Lille en a besoin beaucoup plus que le RC Lens. Si Lens fait pas Ligue des Champions, on va s'en remettre, tout le monde va bien dormir cette année. Maintenant, qui est-ce qui a le plus de chances de rayonner en Europe en étant dans ce championnat de France? Moi, je suis incapable d'y répondre pour plusieurs raisons, parce que en fait, je ne connais pas l'avenir des deux coachs. Je sais pas si Francaise va continuer, je sais pas si Paulo Fonseca va continuer. Je sais pas non plus, encore une fois, si demain tu me dis bon, aujourd'hui, Walid, qui est l'équipe la plus cohérente? Je te réponds Lille comme Simon. Mais si les mecs ils perdent Lenny Yoro, si Chevalier il part, si demain Jonathan David part, Fonseca il part, je sais pas qui va venir sur le banc des remplaçants pour suppléer un potentiel départ de Fonseca, je peux pas te répondre Lille ce soir, moi. Et de l'autre côté, la même chose. Je sais pas, encore une fois, s'ils vont perdre Kevin Danso, s'ils vont péter Franck, ils se disent bon, bah moi je vais faire une Jurgen Klopp, les gars. Je vais me reposer un an et puis je verrai plus tard. Donc moi, sincèrement, jeudi 28 mars, je peux pas te répondre à cette question.
T'as tendance à penser quand même que c'est un peu plus stable à Lens qu'à Lille. En tout cas sur l'effectif et sur les finances, etc.
Les finances, Gibault, on parle.
Bah donc on répond. Donc si c'est une question, on répond Lens alors.
Les finances à Lille, c'est plus quasiment ou plus de 100 millions d'euros de dette quand même. Hein.
On nous donne jamais l'info, mais on sait qu'à un moment, on était à plus de 200 millions d'euros. Là, on est au-dessus de la barre des 100. On n'a pas le chiffre exact parce que bon, le club ne veut pas le communiquer. Ça peut se comprendre. Bon, en tout cas, ils font des efforts. Ils passent la DNCG les doigts dans le nez, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne direction. Mais oui, on sait qu'il faut faire gaffe à tout du côté de Lille. Essayer de bien vendre. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des dossiers qui vont être compliqués. Jonathan David, il lui reste un an de contrat. Heureusement qu'il retrouve les chemins défilés parce qu'il enquille les buts en ce moment. 10 en championnat depuis la trêve. Donc c'est tant mieux pour Lille et tant mieux pour lui.
S'il pouvait faire une double confrontation incroyable contre Aston Villa pour exciter les clubs de première ligue, ce serait bon pour voilà. Lille. Hein.
Yoro, c'est pareil, ça serait une belle plus-value. Donc c'est vrai que c'est cette fin de saison. Moi, je sais que. Voilà, il y a Aston Villa qui est voilà. Si ça avait été un autre club pas trop connu, leur priorité, on le sait, c'est d'aller en Ligue des Champions. Voilà, oui, c'est l'objectif depuis le début de saison. Ils le disent jamais en conférence de presse. Ils vont jamais te donner le nom, la phrase. On veut aller en Ligue des Champions, mais c'est leur objectif.
C'est peut-être le moyen de garder encore une saison Paulo Fonseca. Simon.
Non mais je trouve ça un peu. Excuse-moi, mais là Gibault, je m'adresse à toi, mais j'ai l'impression que la vision elle est un peu caricaturale. C'est quand même pas le Bayern Munich, le Racing Club de Lens, s'ils sont pas en Ligue des Champions. Il va bien falloir payer les salaires, il va falloir vendre des mecs.
Tu
valorises qui? Bon, dans le saut,
tu vas pas vendre
Openda.
Tu vas gagner, mais avec les droits de la Ligue des Champions, t'es
tu
déjà.
Tu partais avec Dugras de la saison dernière, quand même, à Lens.
T'as 8 points, ça fait 8 millions d'euros. T'as les droits télé. Non, ils vont avoir un budget de plus de 100 millions d'euros.
Mais silence,
je veux dire, le mot de la oui que t'as pris à Nancy et que tu dois payer avec des cacahuètes, au bout d'un moment, il va taper au bureau, il va vouloir son salaire.
Le mot de la fin,
Norman. Ça va se passer comme à Lille avec deux ans
non,
de
mais les départs sont connus. Enfin, les joueurs sont.
Norman.
Ouais, juste pour rebondir, là, c'est le stade salarial de Ligue 1. Donc, je pense pas qu'il y ait d'urgence à être qualifié en Ligue des Champions, oui. Du fait de devoir vendre, etc.
Exactement, bien sûr.
Le budget, je crois qu'il a pris 40 millions avec la participation en Ligue des Champions, les différents droits télé, le match contre Fribourg, etc. Alors, si la question est qui a besoin, c'est évidemment Lille. De qui on a envie de voir et qui performera en Ligue des Champions, c'est Lens. Voilà.
Après, en toute objectivité, bien sûr.
Bon, voilà, c'est le mot de la fin, Norman.
Toujours. Merci, monsieur.
Bon match à toi demain soir, Norman. Hein.
Merci beaucoup.
Tu y seras, Norman ?
Bien sûr.
Bon, bah, on va peut-être se croiser, là.
J'espère bien.
Tu seras à l'opposé de moi, mais bon, je
sais pas. Jibo, sa tour d'ivoire là-haut avec des, avec une coupe de champagne.
Je serai aussi haut que Norman, mais lui sera dans un angle.
Non, c'est faux, j'ai été voir Lille-Le Havre. Très accessible, Jibo. Très, très accessible, Jibo.
Ah oui,
Jibo.
Ah ouais, non, mais moi, si tu viens voir, mais c'est avec plaisir.
On a parlé pendant une heure, c'était très intéressant.
Mais pour trop connaître, Jibo, il faut chercher le rouge et jaune alors, ou le blanc et rouge, j'ai pas compris.
Écoute, il y aura moins du rouge.
Écoutez le commentaire de Jibo demain, vous aurez un indice sur sa préférence.
En tout cas, c'est beau de reprendre la Ligue 1, ça fait deux semaines, on est en train d'international, on attend ça, etc. Tu reprends avec un beau bilan.
La semaine prochaine, j'ai un t'imagines, j'ai un Lille-Marseille, un Lens-Le Havre et un Paris-Roubaix sur le même week-end. C'est pas beau ça ?
On a un week-end, on commence avec Lille-Lens.
Petite affiche de Ligue 1, Paris-Roubaix.
Et un petit Valenciennes-Saint-Etienne. Bon, par Valenciennes, ça va être dur. Mais bon, ils sont en demi-finale de la Coupe de France, quoi.
On a un week-end qui commence par Lille-Lens et qui termine par Marseille-PSG avec un City-Arsenal, Dortmund-Bayern.
On va se régaler. Ouais. On va passer du temps avec madame, je pense, ce week-end. Ouais. Hein, on est d'accord.
Lundi plutôt. Plutôt lundi.
Allez, on revient dans un instant. Merci Norman. On appelle 32-16. Vous écoutez Génération After. On parle de Marseille-Paris sur RMC. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown. Vous pourrez écouter aussi en podcast dès demain, même dès ce soir. C'était pas dans Génération After que nous venons d'enregistrer. Voilà, je vous explique comment ça se passe pendant la pause. On met ça en boîte. Hein. Il s'agit d'Hervé Renard. C'est bien marré.
Ouais.
On a beaucoup parlé des prestations de Kylian Mbappé pendant le rassemblement avec l'équipe de France. Toi, Walid, ce soir, tu veux parler d'Aurélien Tchouaméni, un avis qui va sûrement émouvoir pas mal de supporters de l'ancien Bordelais. Tu l'as trouvé un peu suffisant sur les deux matchs en bleu. Jingle, Walid.
Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens là ?
Les Aristochats ?
Pardon, je connaissais pas celui-là.
Moi j'allais dire encore top 3, mais en fait je dis ça à chaque fois et ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est un métier. Non, oui, je voulais parler d'Aurélien Tchouaméni parce qu'on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni est un homme que j'aime beaucoup, notamment dans son discours. Encore une fois, il a fait des conférences de presse de très très bonne facture qui contrastent totalement avec ce qu'il a apporté sur ce rassemblement. Alors, on a eu les infos, indiscrètes ou non, là récemment, qu'il était malade contre le Chili. Donc, il faut le dire, même si pour moi ça n'enlève pas mon propos parce que c'est un propos qui est global. Je trouve qu'Aurélien Tchouaméni en équipe de France, parce que c'est peut-être pas le cas et c'est pas le cas tout le temps avec le Real Madrid où il est capable de faire des vrais bons matchs et d'avoir des vraies bonnes périodes. Je trouve qu'en équipe de France, il est trop dans un confort. Il est trop dans un confort et que le fait de peut-être ne pas avoir de solution de remplacement, je le vois arriver en équipe de France. Quand je le vois jouer, c'est très scolaire. Parfois, il est même dépassé par l'intensité. On parle d'un joueur qui devait devenir après la Coupe du Monde un vrai leader. Et quand on voit la claque qu'on a pris contre l'Allemagne notamment, je trouve que la performance de Tchouaméni, elle est un peu passée inaperçue. Je trouve que sur trois des quatre buts qu'on prend, on prend des frappes à 25 mètres devant la surface de réparation, ce qui doit être une zone où Tchouaméni doit protéger. On a beaucoup parlé de l'animation défensive, mais l'animation défensive, c'est aussi le rôle de Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'il y a très peu de dépassement de fonction, alors que techniquement, ça doit être un joueur qui doit nous apporter ça. Et clairement, je trouve que dans l'attitude, il y a une forme de, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais une main dans la poche pour pas dire autre chose quand il joue. J'ai l'impression de voir un joueur qui a déjà gagné deux Coupes du Monde en équipe de France et qui a 100 sélections. Et ça me dérange un peu. Et si on a un peu de respect pour Aurélien Tchouaméni, par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il peut être. Si on a un peu de respect par rapport à l'équipe de France, on peut pas faire fi de ce qu'il a fait sur le rassemblement et même globalement de ses performances habituelles. Alors là, on dit qu'il est malade contre le Chili. Bah, s'il est malade, il joue pas, qu'il se préserve.
Il y a deux seuls qui ont enchaîné, c'est qui est bizarre.
Ou en tout cas, Deschamps doit mettre autre chose. Il met Guendouzi, il met Camavinga, il met ce qu'il veut, il fait un autre milieu de terrain, mais sans Tchouaméni. Et je pense pas qu'il était malade ou souffrant contre l'Argentine, ni même contre le Maroc, ni même contre l'Angleterre, parce que malgré son but, il met un très très beau but qui est très important, mais dans son rôle de milieu de terrain, je les avais trouvés dépassés, notamment à l'époque. Et voilà, j'en attends beaucoup plus. Tchouaméni vient pas en équipe de France pour faire contrôle passe et bomber le torse. Il doit faire beaucoup beaucoup plus. Et quand j'entends, et je terminerai là-dessus, c'est un transfert à 80 millions d'euros au Real Madrid, etc. On parle d'un joueur qui est dans la caste normalement des plus grands. Quand je vois un Declan Rice, quand je vois un Rodri, quand je vois ce qui se fait de mieux, et ben je trouve quand même qu'on est peut-être parfois pas assez exigeant avec Tchouaméni. Et j'espère qu'il va rebondir sur les prochains rassemblements et notamment sur l'Euro avec l'équipe de France, parce que sinon je continuerai à le dire. Voilà.
Vous nous appelez au 32-16 pour réagir à l'avis de Walid, bien sûr. Simon, tu voulais réagir aussi.
Oui, je veux réagir. Moi, ça me tient à cœur. C'est un mec que j'ai vu grandir. Il a été formé au Girondins. Il a montré une maturité. Je déteste ce mot, mais bon, il s'exprime très bien. Moi, je trouve que il a embrassé cette fonction de leader qu'on lui prête, qu'on a envie de lui coller sur le dos. Je trouve que Walid est un peu dur. Ok, il a pas été très bon. Moi, je l'avais trouvé absolument remarquable. Je crois que c'était contre l'Irlande en qualification. Il avait marqué. Il avait fait un match exceptionnel. Il a connu des hauts et des bas. Tu rappelais le prix de son transfert au Real, qui était très élevé quand même par rapport à ce qu'il avait prouvé. Mais c'est quand même souvent le cas avec les top prospects en Europe. Je trouve qu'il s'est bien relevé parce que ça se passait pas, c'était pas linéaire sa progression au Real. Il a regagné sa
place. Et
quand tu dis il n'est pas là pour faire contrôle passe. Il est là pour faire quoi? Explique-moi, parce que il n'est pas là pour nous faire du Florian Wirtz, du Wirtz.
Je trouve que dans son impact sur le jeu, et notamment ça s'est fait ressentir sans Griezmann, et c'est aussi le cas au Real Madrid où je trouve qu'il fait des belles choses, mais qu'il est sublimé par des joueurs autour qui techniquement sont très très au-dessus de la moyenne.
Mais c'est ça, le cœur de ton propos est là, c'est que tu joues au Real, t'es avec Valverde, Kroos, Modric, là t'arrives au rassemblement, tu joues avec Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur que j'adore, mais qui est pas du tout prêt pour jouer au niveau contre l'Allemagne, Camavinga, Rabiot qui était diminué, parce qu'on parle beaucoup de Tchouaméni, mais Camavinga je l'ai pas du tout trouvé transcendant sur le rassemblement. T'en as pas un en vrai. Fofana si contre le Chili fait un bon match, il met son but, bon etc. Match. Tu peux le ressortir un petit peu, mais sinon au milieu de terrain ils se sont tous plantés.
Non mais aujourd'hui Tchouaméni c'est pas un joueur mid, c'est pas un joueur standard. On a le droit d'attendre.
Non mais
quand
dans
même
sa position,
de l'impact et même défensivement quand tu vois comment Alexis Sanchez, alors il était malade. Ok bon, prenons Florian Wirtz, prenons Moussiala. Comment je sais pas. Il était pas malade contre l'Allemagne. Apparemment, il était pas malade contre l'Allemagne. Il s'est fait tourner.
Pourquoi tu parles
c'est les échos que j'ai eu. Non, mais c'est les échos que j'ai eu là-dessus. Donc, il faut le dire. Il faut avoir une honnêteté intellectuelle là-dessus. Contre l'Allemagne, il était malade. Et contre le Maroc. Et contre l'Argentine. Donc, moi, je dis juste que Tchouaméni, dans ces fameuses, relève de Kanté et de Pogba notamment, il y a des moments où je trouve que on est assez indulgent par rapport à ce qu'il apporte.
Justement, Walid, tu parles
de Pogba. Oui, contre l'Irlande, de Jimi Hendrix et de Shane Long, il a été très très bon. Oui, très très bien. Mais moi, si j'ai du respect pour Tchouaméni, non mais si j'ai du respect.
Pays-Bas, il fait un bon match aussi.
Oui,
je suis très dur alors.
Non mais Walid,
juste que ce rassemblement là.
Mais il n'a pas à sauver sur le rassemblement.
D'accord. Oui, mais il fait partie des leaders, il fait partie des joueurs qui s'élèvent, qui parlent. J'aime beaucoup quand il parle.
Ouais, il parle. La vie de Walid fait l'unanimité sur le chat.
Non, mais c'est un super
YouTube.
Mec. Mais à un moment donné,
oui, mais après, c'est pas un concours d'éloquence, l'équipe de France. C'est super. Il faut être bon sur le terrain.
Parce que
Tchouaméni, nous rappelle Stark, qui avait aussi ce petit côté nonchalant à Bordeaux. T'as Manhattan qui lui dit, je pense que Tchouaméni, on lui a mis un statut titulaire indiscutable beaucoup trop tôt. Il n'est évidemment deux hommes que tu cites, ni Pogba, ni Kanté. Vous l'avez surcoté, nous dit Paradix. On nous dit, également, il y a toujours des excuses pour les internationaux français.
J'entends le chat, mais est-ce que tu peux leur demander qui mettrait à sa place?
C'est une question qu'on pose également.
Problème, ça. Mais pourquoi on est déçu par les performances de Tchouaméni? Pourquoi on trouve qu'il n'est pas assez créatif? Pourquoi il n'est pas assez décisif? Parce qu'on a personne. On manque de créativité. On manque de. Là, je reprends ton. On manque de joueurs frissons. On a des joueurs, comment t'appelles ça? Des joueurs yaourt nature au milieu. Oui. On a personne qui te transperce le milieu adverse.
Mais
on
ne lui demande pas d'être le joueur frisson.
On a personne qui te fait rêver.
Notamment. C'est un garçon qui prend un minimum de risque.
Au niveau du morphotype.
De prendre un peu plus de risque avec le ballon.
Il a un peu le même gabarit que Pogba. Il a marqué quelques buts de loin. On s'est dit, c'est le nouveau Pogba. Pogba. Non, mais c'est je pas pense Pogba, il a pas la moitié de la créativité qu'avait Pogba.
Rappelle-toi à Monaco l'initiative qu'il prenait à chaque fois.
Je pense qu'il a été un petit peu surcoté, un petit peu porté au nu, un petit peu trop tôt. Et je pense qu'on attend trop de Tchouaméni. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il joue propre,
juste
qu'il
rassure. Contrôle pas latéral.
C'est pas de lui que j'attends le frisson et l'étincelle pour faire gagner, pour transpercer la défense.
Quand tu joues à 3 milieux, c'est aussi bien que moi, Wadid. Quand tu joues à 3 milieux, c'est pas pareil. Quand vous comparez à Pogba, c'était à 2 au milieu, il était plus en position où il pouvait se projeter, etc. La sentinelle de Deschamps, tu connais. Pourquoi c'est le gars qui est censé un peu ratisser, donner, distribuer.
C'était qui la sentinelle pour l'Allemagne la semaine dernière?
Et c'est Griezmann.
Non, mais c'était qui la sentinelle?
Bah, c'est Tchouaméni.
Non, alors pour l'Allemagne, c'était qui?
Ah, mais il joue d'une manière
donc
différente.
Donc c'est Kroos qui était meneur reculé, oui. Et qui c'est mais un joueur frisson.
Tu n'as pas ce profil-là en équipe de France.
Mais pourquoi, moi je pense que Tchouaméni est capable de faire ça. Pourquoi Tchouaméni pourrait pas avoir des passes vers l'avant? Pourquoi Rodri, c'est un joueur frisson? Rodri, c'est un joueur frisson. C'est le joueur frisson pour moi actuellement, avec d'autres, hein, mais dans un registre plus reculé, qui va impacter le jeu. Je long, je cours. C'est lui qui a le chronomètre de l'arbitre, en fait. C'est lui qui gère le temps. Aujourd'hui, Tchouaméni.
Il compare au meilleur du monde à son poste. Rodri, pour moi, c'est le meilleur du monde à son poste.
Mijo,
c'est un excellent joueur, mais là, c'est le tout meilleur.
Mais joue en Real Madrid, il joue en équipe de France. Est-ce qu'on a le droit d'attendre une passe vers l'avant?
Tu as tous les droits.
Un impact, que à chaque fois que je vois un mec frapper aux alentours de la surface de réparation, je vois le ralenti. Il est où, Tchouaméni? Ah, il a 4 mètres. Non, mais j'ai le droit, on a le droit d'avoir ça, de demander ça.
Tu as tous les droits, Walid.
Non, mais
on fait une pause et on a le droit aussi d'accueillir des auditeurs de Génération After sur RMC dans un instant. Yannick sera avec nous. Puis Fred Armel va nous rejoindre aussi. Lui qui l'observe au Real depuis son arrivée
au Real, il est plutôt bon au Real.
Chez les Merengues. Reste avec nous, c'est Génération After. On prolonge sur le 4 Tchouaméni après à 21h. Deuxième épisode de notre feuilleton. Marseille PSG, dimanche soir. Reste avec nous. Vous écoutez RMC, il est 20h42.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin et avec Walid Acharchour, débat passionné autour d'un joueur de l'équipe de France dont on parle assez peu, Aurélien Tchouaméni. Tiens, je vais accueillir Fred Armel dans Génération After. Il devient habitué. Bonsoir, mon cher Fred.
Oh, ça me rajeunit de jour en jour.
Salut, Fred. T'as pas eu 2 ans hier, t'en perds encore 2. Tiens, je vois tes cheveux repoussent aussi, c'est incroyable.
Oui, exactement.
C'est fou. Bon, en plus, c'est un sujet que t'aimes bien, toi. Tchouaméni, tu glisses parfois quelques éléments sur le Tchouaméni du Real Madrid le lundi soir. Bon, je sais pas si t'as écouté, hein, Walid a un constat. Il le trouve pas assez dans l'initiative, notamment en équipe de France. Au Real, c'est différent, il faut le préciser. Hein, 8 fois titulaire au poste de défenseur axial. Ouais. Comment tu juges et comment surtout il est jugé, lui, en Espagne, Tchouaméni? Quel statut il a aujourd'hui?
Alors, comment être poli et diplomate? On a du mal à le qualifier, en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas encore convaincu tout le monde au Real. Voilà, autant un autre milieu de terrain français, Camavinga, mais il est adulé par tout le monde. Je connais personne qui dise de mal de Camavinga. Autant de Tchouaméni, il y a beaucoup d'interrogations sur son réel apport au Real Madrid. Alors c'est vrai que cette saison est un peu compliquée parce que jouer 8 matchs quand même comme défenseur central lié aux nombreuses blessures qu'il y a au Real. Il a même fait un match avec Carvajal comme autre défenseur central au sein de la charnière avec lui, quoi.
Oui, donc, contre l'AFC
c'est pas facile, hein. Il a l'air de 1m12, hein, quand même.
On dirait qu'il a toujours joué là, etc. Tu dis il a pas convaincu tout le monde, mais t'as l'impression qu'il a convaincu Ancelotti quand même. Il l'adore.
Alors, Ancelotti l'adore. Il a été très gentil avec lui parce qu'il avait besoin de lui comme défenseur central.
Mais il était titulaire en début de saison, Fred, où il était vraiment bon avec le Real Madrid.
Il a jamais il a joué 62% des minutes possibles cette saison en Liga, donc ce qui est quand même pas mal, en sachant qu'il y a 8 matchs où il était obligé de jouer et de jouer toutes les minutes puisqu'il était défenseur central. Mais on peut pas dire qu'il se soit encore totalement imposé au Real Madrid.
Voilà. Moi, c'est ce qui me semble, Fred, en effet, ouais.
Ouais. Et puis moi, il y a une chose, je vais vous dire un truc dingue, c'est que moi, je le préfère comme défenseur central parce qu'il est hyper concentré, comme c'est pas son poste. Il est pas dans la fioriture, il est hyper concentré. Moi, ce que je n'aime pas de lui, et ce que beaucoup de gens lui reprochent à Madrid, c'est que quand il joue au milieu de terrain, il la joue un peu facile, il a parfois quelques petites absences, et franchement, il y a des pertes de balles qui sont incroyable à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est un joueur. Ouais, c'est en espagnol, on dit ni fou ni fa. C'est on sait pas encore oui, vraiment si c'est un joueur pour le Real ou pas.
Tu disais 62% des minutes, Fred, quand même, entre début novembre et mi-décembre, il loupe une série de 7-8 matchs sur blessure.
Oui, aussi, aussi.
Quand il est dispo, il joue.
Non, je te dis, voilà, moi, son début de saison, j'avais vraiment bien aimé son début de saison. Après, encore une fois, au Real, où t'as à côté Kroos, t'as Mbappé, c'est pas la même chose. Mais globalement, moi je veux encore le répéter. Je dissocie ce qu'il fait en équipe de France du Real Madrid. Et moi, je trouve qu'en équipe de France.
Ce que tu dis de ses prestations de l'équipe de France rejoignent ce que dit Fred, ses prestations au Real. Je veux pas dire que c'est insipide, ce serait extrêmement sévère. Ça reste un très bon joueur de haut niveau. Mais
il n'est pas incontournable au Real. On se dit pas, oui, tu avais dit.
Tu imagines, toi, faire sa carrière au Real ou pas? S'installer pendant 10 ans au Real, Fred?
J'ai du mal à le voir.
Ah ouais?
J'ai du mal à y penser maintenant.
Autant qu'à un moment, ça peut coincer, tu penses?
Ouais, autant.
S'il joue, faut qu'il joue à son vrai niveau.
Autant qu'à Mafiga, mais il est parti pour une aventure extraordinaire au Real. Il a tout.
Après, Camavinga aussi, c'est un constant avec le Real Madrid. Hein.
Et avec l'équipe de France,
aussi, hein, mais c'est un constant. Hein.
Non. Ouais, enfin, cette saison, Camavinga.
Déjà, c'est 4 ans de moins, je crois.
Trouve-moi un mauvais match. Hein.
Ah, moi,
il a dû jouer latéral gauche.
Oui,
souvent,
d'accord. Hein. Mais moi, je préfère parfois latéral gauche au milieu
non.
parce que.
Ah non, au milieu, alors je suis pas d'accord.
Ah, bah parce que moi, je trouve qu'il y a. Après, on va faire un autre débat, mais je trouve que Camavinga, au poste de latéral, il a beaucoup plus de mètres à parcourir. Il arrive lancé. Il est beaucoup moins. Comment dire? Il est beaucoup moins prévisible. Au milieu de terrain, parfois, il y a eu aussi des pertes de balles qui peuvent être dérangeantes, Camavinga.
Mais c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, Camavinga, il est le joueur moderne par excellence.
Oui, il a des qualités.
C'est vraiment le joueur qui se projette vers l'avant. Et puis, souvenez-vous, la fameuse remontada contre le PSG, l'entrée de Camavinga est décisive.
Oui, non,
c'est-à-dire
oui.
que
c'est vrai.
Quand il est titulaire, il est incontournable. Et quand parfois il est remplaçant qu'il entre, parfois Ancelotti le réserve aussi pour révolutionner des matchs. Quoi. Voilà,
il est un peu plus électrique, il va un peu plus loin. Il est meilleur un petit peu dans les. Tu le remarques plus dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans la créativité, dans l'initiative. Mais pour en revenir à Tchouaméni, c'est un mec qui sera forcément critiqué parce que dès qu'il a été titulaire en pro au Girondins, tu parles de suffisance, Walid, mais c'est des mecs qui jouent dès le plus jeune âge avec de l'assurance.
Oui,
et ces mecs-là, quand ils sont pas bons, quand ils vont se faire piquer la balle dans les pieds et que ça conduit à un but, qu'ils vont rater les passes, c'est plus de l'assurance, c'est de la suffisance parce que c'est un peu le style de jeu quand tu joues, que tu dégages cette confiance dans les transmissions, dans la façon dont même le port Altier, tu vois, il se tient très droit.
Tu parles de Joël Micou, là, c'est marrant.
Bah, un peu, mais je suis désolé, il a toujours eu cette élégance naturelle. Et ces mecs-là, quand ils passent à côté,
ce que veut dire Walid, c'est qu'on parle d'un joueur sur le papier qui est titulaire au Real, titulaire en équipe de France, et ça semble presque, excessif comme statut, par rapport à ses productions.
Je trouve qu'on lui en demande trop, on attend trop de Tchouaméni. Ouais.
Je vais accueillir Yannick au 32-16.
Moi, juste pour terminer sur la comparaison Camavinga-Tchouaméni, très rapidement, que ce soit au Real ou même en équipe de France, et surtout même au Real, c'est que Tchouaméni, c'est toujours 5,5, 6. Les matchs. Il y a pas de c'est assez neutre, c'est assez Camavinga est capable de faire 7,5-8 mais aussi parfois du 4 où il passait complètement à côté. J'ai ce sentiment là, c'est beaucoup plus spectaculaire Camavinga quand il est très très bon parce qu'il a un rôle et un profil qui est électrique. Et Tchouaméni, il prend pas énormément de risques, c'est toujours
t'as Kroos, Modric, Valverde à côté de toi,
j'aimerais
régulier.
Je dis juste que j'aimerais, et là il y a un test énorme, il va y avoir Real Madrid City. On va voir ce qu'il va. Là, moi, je l'attends. Moi, je veux qu'il soit très, très bon là-dessus. Et il y a pas mal de joueurs à ce poste-là en Europe, numéro 6, où aujourd'hui, c'était un milieu moderne aujourd'hui. T'es capable de faire. Et on ne doit pas attendre de Griezmann ou de Toni Kroos ou de Luka Modric de faire des choses. Il est capable de faire d'autres choses. Il l'a montré à Monaco.
Est-ce que c'est une vraie sentinelle? Parce qu'à Monaco,
il joue 8 alors.
C'est un 6. Le 8 c'est Kroos ou Camavinga, alors mais sincèrement, et quand tu vois le match contre City en face, t'as Rodri qui est l'un des trois meilleurs, peut-être le meilleur à son poste au monde.
Oui, qui est le meilleur à son poste.
Donc là, la comparaison, c'est terrible.
Bah, bien sûr, oui.
Yannick est avec nous.
Allez nous montrer le contraire.
J'accueille Yannick Walid, supporter du Real. Bon, salut Yannick.
De nous faire mentir.
Merci de ta patience, Yannick. Bienvenue dans Génération After. Alors toi, supporter du Real, ton regard sur celui de Fred également. Est-ce que tu es raccord avec lui?
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont raison. Après, je pense que sur Tchouaméni, il y a une question de perception, c'est-à-dire qu'il y a ce que attendent les coachs, qui aiment beaucoup ce genre de profil, les mecs comme Deschamps. C'est un point qui me fait beaucoup penser à Rabiot un petit peu. C'est des joueurs qui sont très grands, très costauds, qui savent tout bien faire, qui vont tout bien faire, très intelligents. mais qui vont jamais dézonner, qui vont toujours respecter les consignes. Mais après, nous, en tant que supporters, et encore plus au Real dans les grands matchs, parce que bon, quand il faut jouer en Liga et tout ça, c'est une chose, mais dans les grands matchs, il faut amener de la folie, en fait. Il faut, et c'est pour ça que tout le monde préfère Camavinga à Tchouaméni, en fait. Parce que Camavinga, c'est vrai que, comme disait Walid, il va peut-être faire souvent quand il fait une erreur, malheureusement, c'est une erreur dans une mauvaise zone, qui va faire un but, qui va faire une action très dangereuse.
On se rappelle contre Liverpool l'année dernière, ouais, notamment avec le Real.
Tout à fait, ça arrive.
Il est capable
souvent
de faire ça.
Mais pas
il est
cette
capable
saison
de faire ça. Et pas c'est souvent saison. Plus, il le paye cash et ça fait mal parce que, franchement, il apporte tellement à côté quand il casse les lignes, quand il apporte et tout ça, que, honnêtement, moi, pour moi, je pense qu'il jouera pas contre City Tchouaméni. Parce que le milieu, là, sur les derniers gros matchs qu'il y a eu, c'est Kroos, Camavinga, Valverde.
Ouais, mais est-ce que Camavinga sera de retour, sera,
Ah non, c'est bon. Camavinga, il joue dimanche.
C'est bon, Yo?
Oui, ouais, c'est là, a priori, il joue dimanche contre la
Terre. Il joue Fred, il y a dit qu'il pose une bonne question, parce que est-ce que si tout le monde est là, Tchouaméni, on est sûr qu'il est
super passionné. Je suis pas loin de penser comme Yannick.
Non, mais c'est-à-dire que, comme pour reprendre les comparaisons de Walid, c'est un yaourt nature. Alors attention, c'est pas le yaourt nature à lire. C'est le yaourt nature de ces yaourts nature que tu vas manger dans un 3 étoiles. Hein. Parce que quand on dit, on lui en attend trop de lui.
J'aime bien.
100 millions, il est au Real Madrid, le gars. On n'attend pas trop de lui. C'est, il est en concurrence avec Kroos, Modric, Camavinga, Valverde. Donc,
il ne faut pas qu'il devienne ce joueur yaourt nature. Au contraire, moi, je pense qu'il doit faire mieux. Il peut faire mieux. C'est ça, en fait, mon message du soir. C'est de se dire, je suis arrivé, je suis au Real Madrid et je suis en équipe de France parce que faute de mieux, Camara est blessé. Il n'y a personne. Kanté, c'est
le nom de Bouba Camara, il y a beaucoup dans le chat.
Non, mais Bouba Camara, il est blessé. Bouba Camara, malheureusement, il est blessé. Il n'ira pas à l'Euro. Mais personne ne peut jouer au poste de numéro 6.
Camara, tu penses qu'il est, il est à la lutte avec.
Attendez, si ouais, doucement, quand même. Moi, je veux bien que
tu joues avec Camara.
Mais on ne va pas m'expliquer que Camara, c'est, il faut le mettre s'il est.
Personne n'y a répondu encore.
Vas-y, réponds-y.
Je dis juste qu'aujourd'hui.
Tu vas en mettre une.
Non, mais bon, quand même, tout de même.
J'ai dit juste qu'il n'y a pas d'alternative et peut-être que c'est à cause de ça que Tchouaméni est rentré dans un confort et dans une suffisance. Ouais. Et c'est peut-être aussi la faute de Deschamps.
Ça, c'est ton meilleur argument.
Voilà, merci en tout cas.
À 40 secondes de la pub, c'est bien.
Merci, je l'ai eu sur le gong. C'est un buzzer beater. Mais en tout cas, globalement.
C'est-à-dire que de Deschamps, tu précises parce qu'il a dit bravo.
Parce qu'il l'a installé dans le confort.
Peut-être qu'il se dit, il n'y a personne d'autre.
Ça manque de concurrence autour.
J'ai rien essayé autour, etc. C'est lui et pas autre chose.
C'est pas anodin qu'il n'y en ait que deux qui fassent les deux matchs. Mbappé, Tchouaméni.
Mais il y a une comparaison. Il y a une comparaison avec Rabiot. Mais si on a que des nonchalants, que des mecs qui au milieu de terrain, Rabiot ou Tchouaméni qui se regardent, à un moment donné, on se rend compte que sans Griezmann, oui, mais ces mecs-là, ils doivent faire plus. Aujourd'hui, Rabiot, la même chose. Nos milieux de terrain doivent faire plus. Et Tchouaméni, j'en attends beaucoup plus.
Bon, voilà.
Après, si je peux me permettre juste une dernière petite remarque, c'est que moi, je crois qu'il ne va pas changer son jeu. Il ne va pas faire plus. C'est un joueur qui fera toute sa carrière comme ça, comme Rabiot, qui a eu quelques éclairs, mais bon, qui rentre assez vite dans le rang. Il y aura toujours des clubs pour mettre des 100 millions, des 80 millions. Il ira peut-être à Manchester United, des trucs comme ça. Pour avoir des joueurs comme ça, des joueurs qui sont sûrs, qui sont bons partout, mais qui n'ont pas de dépassement de fonction. Et du coup, pour moi, je pense qu'il aura même pas besoin dans sa carrière de sortir.
5,5, 6 sur 10 à chaque fois, mais.
Ouais. Et tu l'as tout le temps,
Tu l'as tout le temps.
Ça fait un peu cher les 80 millions, 5,5, 6.
Ça dépend, parce que c'est. Il y en a qui ont. C'est le très haut niveau quand même. Après 5,5 sur 10,
après oui,
c'est le
haut niveau quand même.
Yannick, merci.
Au conseil de classe, c'est peut faire mieux.
Ah, ça c'est un autre débat.
Doit faire mieux.
Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra mener plus tard. Peut-il vraiment faire mieux?
Mais ne les exploite pas.
Merci Yannick. Très bonne soirée à toi. Fredo, merci d'être venu dans Génération After. On te retrouve très vite sur RMC, bien sûr, dans un instant. OMPG, les infos d'avant-match, bien sûr. Et cette question, ce match est-il aussi important pour Paris que pour Marseille? On vous attend nombreux au 32-16, supporters marseillais, supporters parisiens, bien sûr. Vous écoutez Génération After. Merci d'être avec nous. Et sur RMC, à tout de suite.
RMC. Viry-Châtillon, Sucy-Ambry. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez. Il demandait pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Simon Dutin et avec Jimmy Brown, on est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, l'After prend le relais comme tous les soirs jusqu'à minuit. Hein, n'hésitez pas aussi à télécharger le podcast de Génération After. Le nouveau podcast aussi, c'était pas dans Génération After. On est avec vous à toute heure de la journée, bien sûr. Tiens, un petit message de Oussem sur notre débat de Tchouaméni, qui n'est pas le plus grand défenseur d'Aurélien Tchouaméni.
Oussem Moussaïef.
Oussem Moussaïef, bien sûr, qui nous dit « J'aime bien la formule, elle est un peu sévère peut-être. Tchouaméni, c'est la forme de Pogba avec le fond de Chantôme. »
Ouais, ah, Chantôme, ouais, c'est dur.
Pas révéler les discussions du groupe WhatsApp à l'intérieur comme ça, c'est pas
dur.
Beau.
C'est un peu dur, mais...
Chantôme, c'est dur. Mais il a raison, Ous, en disant que le morphotype qui... Tu les mets à contre-jour, t'as l'impression que c'est les mêmes avec Pogba. Et pourtant, il n'a pas le même foot dans les pieds quand même.
Il reste un très bon joueur et on a envie de voir mieux.
C'est un très bon joueur.
On a envie de voir mieux. On a envie de voir mieux.
Alors, messieurs, je rappelle que dans trois jours, c'est Marseille-Paris.
RMC, OM, PSG.
J-3.
J-3 sur RMC, bien sûr, avec Jean-Louis Tour qui sera au Vélodrome pour ce match, entouré de Flo Germain, Jeannot Rességuier, le débrief dans la foulée, dans l'after, évidemment. Alors, on a convoqué un homme qui a joué sous le maillot marseillais, sous le maillot parisien, année 90-2000. Peter Luxin est avec nous. Salut, Peter.
Salut à tous, bonsoir.
C'est cool de t'avoir avec nous.
Salut, Peter.
Et ouais, fort, Peter, quand même. Ouais. Joueur patrimoine Ligue 1 là aussi.
Ouais.
Et un peu Liga aussi.
Ah oui, patrimoine.
Il a joué à Marseille, il a joué à Paris, mais avant Marseille.
Il a joué à Bordeaux.
Et oui, une saison.
Patrimoine, ouais. Patrimoine jeunesse, moi c'est mes grands. Enfin, j'ai pas de grand frère, mais c'est époque grand frère quoi. C'est... Ah, mais on nous parlait de Peter Luxin, nous, quand on est arrivé 8, 9 ans, 10 ans dans le foot. On nous disait Luxin et Dalmat. Il y avait un vrai.
Bien sûr,
il y avait une vraie hype là-dessus quoi.
Et juste pour finir.
J'ai pris un coup de vieux, pris un coup de vieux en moins de 30 secondes.
Et putain, juste pour finir de lustrer là, pour te mettre dans les bonnes conditions, il y a coach Courbis qui t'a entraîné, je crois, c'est à Bordeaux.
Roland, c'est mon second papa, on va dire.
Ben moi, c'est une des plus belles formules que j'ai entendues de Roland sur un joueur. Il disait Luxin, quand tu reçois une passe de Luxin, t'as l'impression qu'il a nettoyé le ballon avec un chiffon tellement la passe.
Elle est lessiveuse, oui.
C'est beau ça.
Il prenait un ballon et dégueulasse et le nettoyait.
Magnifique.
Bon, on passera le message à Roland. Alors, Peter, t'es adjoint aujourd'hui du FC Dallas aux États-Unis en MLS où t'as fini ta carrière de joueur. T'es heureux? Ça va au Texas?
Super, super. Là, c'est ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant que je suis au Texas avec avec mes enfants et ma femme en tant qu'adjoint, comme vous le savez bien. Là, on est en pleine saison aussi. Mais bon, vous savez que la saison elle est un peu décalée avec la saison européenne, donc on vient juste de commencer. Et super, on est tout va bien ici.
Bon, en plus, on entend que tu as pris l'accent texan, là, quand tu nous parles dans Génération After.
Mais c'est pas mal, hein, l'accent texan mélangé avec l'accent marseillais, ça doit faire un bon mélange.
C'est un bon smoothie.
Donc, je précise, deux saisons à Marseille, 98-2000, une saison à Paris, 2000-2001. Tu as joué trois classicos en tant que titulaire, deux avec l'OM et un avec Paris, une époque où il y avait match entre les deux équipes. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, toi? Un souvenir, tu as des frissons quand tu y penses, ou c'est aussi une pression énorme, monumentale, qui te fait dire... Je les ai passés, c'est loin derrière moi.
Non. Plus, ça a été des gros souvenirs parce que finalement, les joueurs, on rêve que de matchs comme ça. Hein. C'est des matchs avec un engouement énorme. On en parle presque un mois avant. Donc, c'est sûr que plus que des frissons, je dirais, c'était vraiment un engouement spécial pour tous les joueurs. C'était une pression. Bon, moi, dans mon cas, ça a été un peu différent parce que mon troisième classico, ça a été... avec Paris, donc
oui.
Vous pouvez bien imaginer que j'ai reçu un peu de tout. J'ai reçu un peu de tout, mais ça a été énorme, quoi. C'est des gros matchs, c'est des matchs que tout joueur veut jouer, quoi.
Tu passes de Marseille à Paris en 2000, hein. T'as 21 ans, hein. T'es jeune, hein, quand t'arrives à Paris. Tout à l'heure, Jimmy, on parlera aussi de cette époque parisienne. C'est l'autre plus gros transfert à l'époque du club avec Okocha, 90 millions de francs. À l'époque, ce qui nous fait quoi, environ 15 millions d'euros, à peu près.
C'est ça.
Les jours avant ton arrivée avaient été très tendus, hein. Pas mal de supporters parisiens s'étaient opposés à ta venue. Toi, le Marseillais de naissance aussi. Comment tu l'as vécu à l'époque, ça?
Bah, ça a été difficile dans les deux sens parce que finalement je suis parti de Marseille où ça a été vraiment difficile même sur le côté familial parce que pour mes frères pour mes parents ça a été difficile à vivre et ensuite en arrivant à Paris où justement on m'a attendu pas les bras ouverts on va dire du côté des supporters Mais je l'ai bien pris parce que finalement, moi, tout ce que je voulais, c'était être sur le terrain. On a dû faire une réunion un peu assez spéciale entre le staff, moi-même et les supporters pour justement que les supporters comprennent que moi, j'étais là pour justement gagner des titres et donner le maximum de moi-même. Et donc, ça a été difficile au départ, mais c'est rentré dans l'ordre après le premier match. Parce que justement, ils ont vu que j'étais prêt à tout donner. Et que ce soit à Paris, que ce soit à l'Atlético Madrid, que ce soit à Celta Vigo, à Marseille, j'ai toujours fait la même chose. Donc ça s'est calmé et ça s'est très bien passé après. Bon, après, sur la fin de saison, ça a été un peu différent. Mais j'ai été content quand même de mon année parisienne.
Peter Luxin est avec nous dans Génération After. Simon.
Oui, Peter, il y avait une énorme équipe à Marseille. Hein, je ne vais pas aller jusqu'à dire que le vrai classico à l'époque, c'était contre les Girondins de Bordeaux, Delibop. Vous en aviez pris une belle, hein, à l'Escure, je crois, un petit
31 janvier 99.
Le plus grand souvenir au stade. Il y avait une grosse équipe à Marseille.
Supporter bordelais, là.
Hein. Oui, un petit peu, mais il y avait une grosse équipe à Marseille. Ma question, elle est toute simple, parce que Dalmat, Okocha, Luxin, c'était monstrueux à l'époque de recruter tous ces joueurs-là.
Nico Anelka aussi.
La sauce n'a pas vraiment pris à Paris. Est-ce que tu as déjà, il t'est déjà arrivé d'avoir regretté d'être allé à Paris? Et si oui, pourquoi tu y es allé? Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Pourquoi cette équipe qui pouvait vraiment faire quelque chose a été démantelée? Du gars est parti aussi, Dalmat, j'en parlais. Est-ce que tu as regretté ce soir?
Regretter, non, pas du tout, parce qu'en fait, on était rentré, on arrivait à une époque un peu délicate à Marseille. On m'avait fait comprendre à Marseille que le mieux pour moi, c'était de partir, parce qu'il pouvait avoir une rentrée d'argent assez importante à Marseille. Et, il m'avait expliqué qu'il voulait rentrer dans des années transition. Moi, à mon âge, c'est vrai que peut-être que il n'y avait pas trop de réfléchi à cette époque-là. Bon, j'ai dit que j'étais pas prêt non plus à vivre des années de transition. Je voulais vraiment jouer la Ligue des Champions. Je voulais essayer d'intégrer l'équipe de France. Donc, je me disais à ce moment-là que j'avais pas le temps. Donc, c'est pour ça que la meilleure solution pour moi, c'était d'aller à Paris. J'avais eu l'occasion de parler même avec Nicolas Anelka, avec d'autres joueurs à cette époque-là. Et donc, avec ce qui allait se passer à Marseille, qu'on m'a bien fait comprendre que la meilleure chose pour moi, c'était de partir. Donc, c'était gagnant-gagnant pour les deux parties, en fait, pour Marseille et pour moi. Marseille allait, voilà, les 15 millions d'euros à l'époque. Donc, c'était une bonne rentrée d'argent pour eux. Et je voyais que c'était un peu dans la suite de ma carrière. Je voyais ça assez intéressant. Donc, regret, pas du tout. Le seul regret que j'ai eu avec Paris, ça a été que, justement, on ne nous avait pas laissé de temps. Alors qu'on était tous, c'était quand même une jeune génération, il fallait nous laisser juste un peu de temps. Et ça a été vraiment le seul regret que j'ai eu, parce que je suis parti trop tôt de Paris.
Peter Luxin est avec nous. Tiens, Peter, justement, pour revenir au classico Marseille-Paris, est-ce qu'il y a une différence d'ambiance, toi, qui as vécu des deux côtés, dans l'avant-match, dans la pression populaire, hein, selon que tu sois Marseillais ou Parisien?
Ah oui, ça, moi, je vais pas faire la fine bouche ici, je veux dire, ce que je pense, et à Marseille, on la vit, c'est différent. On la sent de n'importe quel secteur ou partie de la ville, on va dire, ou zone de la ville, on sent cette pression, cet engouement, et à Paris, ça a été complètement différent. Parce que Paris, c'est peut-être un peu plus, on va dire que, où j'étais, où je vivais déjà, je la sentais pas spécialement cette pression. La pression, on la sentait plus à l'intérieur du club, mais on la sentait pas sur un plan du social. À l'extérieur, on la sentait pas. Et à Marseille, je vous dis sérieusement, je sortais de la maison, je savais que je pouvais voir une dizaine de personnes qui allaient me parler de ce match. Donc c'était vraiment différent. Ouais.
Jimmy.
Pour rester sur ce match, Peter, est-ce que tu suis l'actualité de la Ligue 1 cette saison? Est-ce que tu regardes l'OM? Est-ce que tu regardes le PSG? Comment tu le vois, ce match? Et est-ce que tu arrives depuis Dallas à regarder un petit peu la Ligue 1?
Et t'es pour qui?
C'est pas...
À l'accent, on a compris, t'étais pour qui? Ne te dis pas ça.
Non, pas forcément. Attends.
Non, déjà, je suis pour Marseille.
Bah,
je suis pour Marseille, mais après, bon, moi, j'ai une façon et j'ai une optique un peu différente. d'approcher un peu ces matchs. Maintenant, je suis plus dans le porté sur le jeu. Donc, la Ligue 1, bien sûr que je la suis. J'ai failli signer dans un club de Ligue 1 il y a pas longtemps, donc j'ai été obligé de suivre tout ça. Après,
Clermont,
on peut voir. Bien.
Bien validé.
Ouais.
Je te l'avais
bien
dit, validé. Quoi, avant l'émission.
Il me l'a dit avant l'émission, je croyais pas. Je lui ai dit, ouais, t'es un mytho, pas du tout, il n'allait pas à Clermont et tout.
J'allais te la poser cette question, tu as répondu avant ma question. Mais on en parlera après.
Et donc là, pour Marseille, après, on voit justement que Marseille a beaucoup plus besoin de ses points que Paris. Paris, sont quoi? Ils sont à 12 points, je crois, ou à 13 points du second. Ouais. Après, il y a les internationaux. On ne sait pas s'ils vont faire peut-être tourner Mbappé. Je ne pense pas, peut-être, parce que pour l'importance de ce match, je ne sais pas exactement. Bon, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais on voit que vraiment, sur un plan de vue vraiment besoin, on voit que Marseille, ils ont vraiment besoin de ce match, parce qu'ils sont... Ils sont quoi? Ils sont à 4 points, je crois, 4-5 points de... Je ne sais même pas si en France, les 4 premiers, ils rentrent en Ligue des Champions.
C'est 3 premiers plus 1 pour ton préliminaire.
C'est 3 plus 1.
Ouais, bon, c'est pareil. À mon époque, c'était la même chose. Donc, ils sont à 4 points de Lille.
Oui,
c'est ça. 4 points de Lille, le 4e.
Exactement.
À 4 points de Lille. Donc, vraiment, c'est vraiment l'OM a un besoin énorme de faire un bon résultat contre Paris.
Eh bien, tu as lancé le débat qu'on va mener dans un instant après la pause. Tu peux rester avec nous, Peter, si tu veux bien. Il est quelle heure, là, à Dallas? Il est 15h.
Là, il est 3h15.
3h15. Bon. Alors reste avec nous, c'est bon, en plein après-midi pour toi, 21h12 en France sur RMC.
Il faut qu'on parle de cet épisode.
Mais quoi ?
L'épisode Clermont.
Ouais, moi j'aimerais
bien vous, bien sûr.
J'aimerais bien entendre Peter sur son passage au PSG, pourquoi ça a pas marché, parce que ça reste un traumatisme pour beaucoup de supporters parisiens, cette équipe-là.
Comme toi, Jimmy.
Et c'est une analogie
avec
à faire.
Avec plaisir, vous parlerez de tout ça.
Allez, reste avec nous, Peter, c'est un plaisir de t'avoir dans Génération After. On fait une pause, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown, avec Oulida Cherchour et avec notre invité ce soir dans Génération After, Peter Luxin, ancien Marseillais, ancien Parisien, à 3 jours du classique entre Marseille et Paris dimanche soir. Ce sera bien sûr sur RMC. Merci Peter d'être avec nous encore une fois. Si tu devais garder un souvenir, toi, d'un classique entre Marseille et Paris, ce serait lequel? Une image, quelque chose qui te revient là, plus de 20 ans après?
Ah, ne dis pas à Roland que c'est le match au parc en 99 là, sur le but de Bruno Rodriguez. Roland, c'est
une petite perte de balle au milieu de terrain, effectivement.
Ah, oui, on l'a
exact, Roland. Exact. Je me rappelle très bien de ce match. Ouais. Bah, je dirais peut-être le.
Un geste, hein, je sais pas, une agressivité, un duel remporté.
L'agressivité, ça a été plus avec Bruno et que
Rodriguez.
Ngoti
à l'époque, ouais, bah.
Et c'était bizarre parce que justement moi j'étais à Paris et Bruno était à Marseille.
Oui, alors que
donc il
oui.
Y a une petite échauffourée à la fin du match entre tous les deux que je m'en veux encore au jour d'aujourd'hui, mais bon, c'est du passé, donc je vais dire que c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là, parce qu'en plus c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que j'aspecte beaucoup. Donc une petite échauffourée, ça a été ça a été assez tendu entre tous les deux à ce moment-là, ouais.
Et juste pour les souvenirs, hein, nous on n'est pas dans vos vestiaires, on aurait adoré. C'était comment l'ambiance dans un vestiaire là avant un Marseille-Paris, quand tu jouais à Marseille par exemple? C'était très différent dans les mots des coachs, dans l'ambiance générale.
Bah, de toute manière, avec les mots Roland, avec tous les autres coachs, il est très différent. Donc Roland, vous savez, vous le connaissez, il est très gestuel, donc ça a été C'était facile pour nous d'être motivés après les mots et après les causeries de
Roland. Mais jouer la rivalité ou pas?
Ah, tout le temps, bien sûr. Il y avait de la rivalité, mais après, de toute manière, même s'il a en joué, il n'avait pas besoin de tout ça pour justement nous motiver. Et après, une motivation, après je peux me tromper encore une fois, une motivation côté marseillaise, elle sera peut-être plus importante que du côté parisien.
Ah, après,
minuscule parenthèse.
Attention, je vais me reprendre parce que là, sinon ça peut aller trop loin. Je parle surtout du côté vestiaire, côté joueur. Après, du côté fan et tout ça et supporter, ça peut être différent. Ouais.
À l'époque, c'est quand même deux équipes qui n'ont pas été championnes depuis longtemps. C'est-à-dire que le Classico, c'est quand même l'événement de la saison. Peter faisait bien de rappeler que maintenant, c'est devenu un peu plus accessoire pour Paris que pour Marseille.
Oui, la rivalité sportive est pas la même que dans les années 90. Ouais.
Alors justement, là, Peter nous tend une perche. Hein. Pour qui c'est plus important, Walid, ce match-là? Pour est-ce qu'il est aussi important pour Paris que pour Marseille? Paris qui a 12 points d'avance, Paris qui est en quart de finale de Ligue des Champions.
On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai un sentiment qui est très partagé parce que, en fait, j'ai l'impression quand même que pour l'image, ce classico pour le PSG est très important. Parce que si ça gagne pas, on va refaire des débats autour de Luis Enrique, de Kylian Mbappé, avant le match contre Rennes et avant le match contre le Barça. Mais comptablement, il ne sert à rien ce match-là pour le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, en fait, c'est totalement différent. C'est que comptablement, il est très très important ce match-là. On l'a dit tout à l'heure avec l'enjeu de réduire la marge sur la quatrième, voire la troisième place pour Marseille. En termes d'image, il est aussi important parce que ça reste Marseille, ça reste un classico. Mais de par la saison que l'OM fait et puis la galaxie qu'il y a entre l'OM et le Paris Saint-Germain, plus les blessés, je pense que si l'OM perd le match, c'est pas si grave que ça. En fait, sportivement, on se dira, en termes d'image, hein, je parle, on se dira, c'est normal que le PSG gagne contre l'OM. Donc moi, j'ai des sentiments un peu ambivalents là-dessus. Je sais pas, en fait, bien évidemment que sportivement, c'est le plus comptablement, c'est le plus important pour l'Olympique de Marseille. Mais en termes d'image, si le PSG perd face à ce Marseille-là, ça peut faire un...
Tu peux te mettre le feu très vite,
ouais, ça peut faire tâche.
Simon,
je suis pas tout à fait d'accord parce que à Marseille, même s'ils finissent à 2 mètres du buffet en fin de saison, si tu gagnes contre Paris, t'auras réussi un peu ta saison. Souviens-toi, ils les ont tapés en Coupe de France l'an dernier. On en a parlé pendant des mois.
Ouais,
je suis pas persuadé.
Peter, tu voulais réagir aussi.
Non, juste que je vais prendre un peu des deux parce que je pense que sur un plan de vue image, c'est sûr que Paris gagner contre Marseille, ben sur un plan de vue image, ça sera toujours important. Après Marseille, sur le plan de vue comptable, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est que Marseille essaie de rentrer dans une et d'avoir une compétition européenne. Ça, c'est quelque chose qui sera vachement important pour eux. Et ensuite, j'ai peur que un mauvais résultat contre Paris, ça peut jouer beaucoup de mauvais sourds à Marseille pour le suite de la saison. Il leur reste 8 matchs avec celui-là. Ils n'ont pas des matchs faciles à jouer parce qu'ils vont jouer contre des équipes qui sont en train de jouer le maintien, d'autres équipes qui veulent essayer aussi de rentrer en Ligue des Champions. Donc ils ont une fin de championnat assez...
Et il y a la Coupe d'Europe.
Et il y a la Coupe d'Europe au milieu aussi. Donc un peu des deux là, ça va être
c'est dur à répondre.
Enfin, si tu joues avec
Pour Paris c'est une image.
Et que tu t'étonnes de perdre,
c'est quand même un immense exploit pour l'OM. On rappelle qu'ils ont pas battu le PSG au Vélodrome en championnat depuis, je crois, 13 ans.
Ouais, depuis 2013, non?
Ouais.
C'est Ayou a le triplé, le 3-0 contre
2013, c'est pas un peu plus tôt ça?
Ouais, ça doit être 2013.
Mais
je crois.
Bref,
Ayou, Rémi.
Et pour autant, le PSG, il y a plein d'histoires quand même. Ce sera le dernier, très probablement le dernier OM PSG de Kylian Mbappé qui veut marquer l'histoire. Luis Enrique a parlé de ce match. Il a dit que c'était un match différent des autres parce que l'ambiance du Vélodrome est assez unique.
Ce match-là.
Donc c'est compliqué.
Avec
Voilà, mais
il est important quoi qu'il arrive.
Moi là où je mettrai un peu de réserve par rapport à ce que tu dis, Peter, c'est que c'est tellement difficile pour l'OM d'appréhender ce match avec tous les absents qu'ils ont en plus en ce moment. Que à part évidemment s'ils prennent une lourde défaite, ça marquera. Mais s'ils arrivent ne serait-ce qu'à les accrocher et à pas perdre, alors évidemment les supporters, c'est jamais satisfaisant de perdre contre le PSG. Ce sera toujours un déchirement. Mais s'ils arrivent à gagner, c'est un immense exploit. Donc c'est pour ça que je pense et j'espère que l'OM pourra se relever d'une éventuelle défaite après ce match-là. Peter, je t'en prie, vas-y.
Non, mais c'est absolument la pression qu'il y a interne. Dans cette ville, après un match contre Paris, elle est assez forte. Après, il y a le niveau un peu sur un aspect psychologique et mental avec les joueurs, que c'est pas évident de jouer à Marseille. C'est juste ça, plus ou moins, mon difficulté un peu de comprendre un peu les choses avec comme les joueurs peuvent s'adapter à une défaite contre Paris sur le reste de la saison, parce qu'ils vont devoir oublier une...
Ah oui, tu veux dire que la semaine après le match va être dure, quoi. Si c'est de, en
elle va être dure, la préparation. Ouais. La préparation ne va pas être la même pour aborder ces matchs-là. Là, il y a la Coupe d'Europe. J'ai pu jouer des classicos aussi, et c'est vrai que la tension, elle est assez... c'est rude après une défaite contre Paris. C'est pas évident à digérer. Après, bien sûr qu'ils devront la digérer parce qu'ils sont sur un autre championnat. Paris, ils sont dans une autre planète. Mais c'est pas évident parce que au quotidien, ça va pas être évident de gérer tout ça, quoi.
Peter Luxer est avec nous. Tiens, Peter, on avait une question pour revenir sur le passé. Pourquoi ça n'a pas marché au PSG à l'époque, là, avec ce grand projet, avec des joueurs français qu'on voulait ramener ici, Nico Anelka, projet banlieue même, hein.
Ouais, Bernard Mendy, Sylvain Distin, Nico Anelka, Stéphane Dalmat à l'époque, sans citer Fred Duhu qui arrive.
Tout le monde s'était enflammé. On s'est dit, attention à ce pari-là, il va être extraordinaire.
On parlait, moi.
Ah, quand on était jeunes, on se pensait que ça
allait être extraordinaire de voir tous ces joueurs arriver dans. Il s'est passé quoi, Peter?
Bah, pour moi, ça a été assez simple. On nous a pas laissé le temps. Il faut pas oublier que quand même, moi je crois que j'arrive à Paris, j'ai quoi, 22 ans. Dalmat, c'est la même chose. Anelka, même s'il avait déjà une carrière derrière lui, il reste jeune aussi. Donc il y a eu beaucoup de joueurs. Sylvain Distin qui était jeune. Il y avait Bernard Mendy qui était jeune. On avait beaucoup de jeunes joueurs et avec un groupe aussi jeune, on a besoin un peu de temps. On sait qu'on avait peut-être pas trop ce temps parce que tout le monde voulait des résultats, mais après il y a une réalité. On restait tous jeunes, une génération très très jeune. On nous a pas laissé le temps. Il y a Louis qui vient ensuite. Pareil, je pense que là aussi, il nous a pas laissé le temps de bien travailler ensemble. Une jeune génération comme ça, il faut pas attendre du succès après 2 ou 3 mois. C'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est faire chaque année des apports de joueurs, vraiment à des postes assez spécifiques pour justement bien nous entourer. Et c'est quelque chose qui n'a pas été fait.
Vous avez terminé 9e de Ligue 1 cette saison-là, exactement.
On termine 9e de Ligue 1, on commence bien la saison, on a cette époque-là, cette fameuse époque à Paris là, de cette trêve hivernale, en tout ça, là, qu'on n'a pas bien suggéré. Et donc voilà, pour moi, c'est facile. On ne nous a pas laissé le temps. Et avec le temps, j'étais convaincu qu'on aurait pu faire des grandes choses. En plus, il y a Ronaldinho qui vient l'année d'après. Donc, tout ce mix-là de joueurs, on aurait pu faire quelque chose de beau.
Ouais. Et après, tu pars au Celta pour 3 saisons avant de jouer pour 3 saisons également pour l'Atlético de Madrid, et puis le Real Saragosse et le Racing Santander, et puis Lausanne avant d'aller à Dallas. Walid, une dernière question.
Oui, moi, je veux parler de son actualité. Ça m'intéresse. Et adjoint notamment dans son club actuel, Peter, tu viens d'en parler, ton nom a circulé, moi j'ai suivi de près le dossier clermontois parce que c'est l'adjoint d'Habib Bey du Red Star, qui est Sébastien Bichard, qui a récupéré l'équipe avec Gastien, et j'ai entendu ton nom très très haut dans les discussions. Raconte-nous un petit peu cet épisode, pourquoi ça s'est pas fait, et surtout quelles sont aujourd'hui tes motivations. Est-ce qu'on peut te retrouver dans un staff de Ligue 1, numéro 1, numéro 2, dans les prochains mois? Voilà, ça m'intéresse, moi.
C'est gentil que ça t'intéresse, Ben.
Parce qu'on me dit, à l'intérieur, en tout cas, du milieu du foot, on me dit que du bien de
Peter,
de
ton travail. Technicien, ouais.
Et on n'en parle pas beaucoup, donc.
Merci pour tout ça. Ben, en fait, avec Clermont, comme ça s'est passé, j'avais eu des relations avec Yannick Flavien, et je vais en profiter pour saluer une personne très agréable, une personne vraiment très très bien. Ensuite, j'ai pu avoir une conversation aussi avec Ahmed.
Oui, le président.
Ouais, le président. Donc ça date aussi de fin d'année dernière. Mais vraiment, ils ont été vraiment super parce que. Du fait, comme ils ont protégé aussi Pascal, de tout le travail qu'il a pu faire à Clermont, parce que si Clermont est là aussi, c'est aussi grâce à Pascal.
Bien sûr.
Donc vraiment, ils ont été. Il y a jamais eu vraiment de décision définitive. Ça a été toujours avec le respect par rapport à Pascal. Donc j'ai vraiment aimé la procédure, comme ça s'est passé, la manière. La touche qu'ils ont pu avoir, donc ça a été super. Et ensuite, même dans le passé, j'ai eu Monaco aussi, j'avais eu Reims avant que l'entraîneur actuel récupère l'équipe aussi. Donc en France, j'ai eu quand même pas mal de touches. Et je m'en cache pas. Et de toute manière, c'est pas un manque de respect à ces équipes-là, c'est juste une réalité. Et en Espagne, ça a été la même chose. Donc
Pourquoi ça se concrétise pas?
Ça a été juste que j'ai eu des touches aussi aux États-Unis en tant que premier. J'ai préféré et je préférerais peut-être passer un an aux États-Unis. Après ça, c'est une décision familiale aussi, parce que j'ai mes enfants qui jouent au ballon. Et il y a les deux là qui sont, ben pour le moment, ils sont bien partis. Donc je gère aussi par rapport aux deux, et même avec ma fille qui est à l'université ici aux États-Unis. Après 20 ans de carrière, ma famille m'a suivi. Donc là, mes décisions un peu sportives, elles passent un peu après les décisions familiales. Donc c'est pour ça que je suis pas en France, mais ça arrive.
Bon. Ça arrive et viens à Bordeaux, on a besoin de toi, Peter.
Ouais, par exemple, c'est pas la Ligue 1, Peter, mais bon.
C'est pas grave. Viens nous faire remonter en Ligue 1, ce serait cool. Peter, merci. Puis je rappelle également que t'as la chance pour quelques dollars d'aller voir l'une des plus grandes stars du basket mondial, Luka Doncic à Dallas, hein, au Mavericks. Je sais pas si t'as l'occasion d'en profiter. J'espère.
Si, on a l'occasion. Merci à vous.
Merci pour tout, Peter. À très vite, on espère.
Ouais. Merci.
Bon après-midi à toi.
À bientôt.
Allez, on revient dans un instant, les amis, pour la suite de Génération After. On va écouter Jimmy, qui estime que, eh bien, les clubs français, que c'est trop facile de taper sur les clubs français après notamment les réticences exprimées par Flo Moris à Rennes de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Reste avec nous, c'est RMC, c'est Génération After, 21h28. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Simon Dutin, avec Walid Acharchour, on est ensemble jusqu'à 22h. Merci d'être avec nous sur RMC. Je vous rappelle, on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After, 142 000 abonnés. Merci.
Très intéressant, d'être Peter fidèle. Dutin.
Ouais, bon client, j'ai envie de le voir en France, client, moi, tu vois, prendre une équipe.
Ouais. J'ai envie d'approfondir tout ça.
Intéressant, et qui vienne nous voir également en studio, ce serait pas mal. Voilà. Tiens, une info là sur le site d'RMC Sport que j'ai sous les yeux. Xavi Alonso ne sera probablement pas le prochain entraîneur du Bayern. C'est Uli Hoeness qui le dit.
On a compris ce où soir. Il va. Hein.
Super, il va aller à Liverpool. Voilà.
Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit, nous allons voir s'il est possible de le faire venir cette année, mais ce sera difficile, voire impossible. Disons que s'il avait été à deux ou trois années de succès avec le Bayer Leverkusen, il aurait été probablement plus facile de le faire venir.
Ouais, est-ce que tu entends qu'il va rester là-bas ou que c'est pas,
ouais,
c'est pas
ça, assez dimensionné pour le Bayern. Et que presque, il n'est pas encore assez expérimenté pour prendre le Bayern.
Ah bon.
Enfin, moi, c'est comme ça, je comprends. Hein.
Bon,
s'il avait deux ou trois années de succès, on l'aurait pris.
Comme on peut.
Hein, est-ce qu'il veut pas perdre la face, en fait?
Si,
je te relis la phrase. Disons que s'il avait été à deux ou trois années de succès, il aurait été probablement plus facile de le faire venir.
Non, plus facile de le faire venir, c'est-à-dire, si lui, il avait envie de venir, ou
ça veut dire que soit il a envie de poursuivre, d'aller voir
Ligue des Champions avec le Bayern,
soit qu'il n'est pas veut aller ailleurs, mais de toute façon, ils se rassurent comme ils peuvent au Bayern. Mais moi, de toute façon, c'est bien fait, j'en ai ras le bol, le Bayern, dès qu'il y a un mec qui rince tout le monde, que ce soit sur le banc ou sur le terrain,
il va au Bayern.
Pour l'associer avec Moussiala, ça va se faire tout drôle.
Ah ouais,
il va à Liverpool, je pense, Xabi Alonso.
Bah, espérons-le.
Peut-être.
Oui, il va rester.
Bon, en tout cas, selon le quotidien Bild également, il y aurait une piste, hein, Zinedine Zidane, pour reprendre le Bayern après Thomas Tuchel, avec potentiellement Franck Ribéry comme adjoint.
La transe de Walid.
Zidane au Bayern.
Et pourquoi pas. Moi j'adore ce club, mais pourquoi pas, j'adore Zidane.
Zidane au Bayern.
C'est quoi le problème, grand club?
Ce serait immense.
La Sabonia Strasse, les titres, l'histoire, le palmarès, l'ambition.
Ça me fait rien.
Ça te fait rien?
Ah non, Zidane au Bayern, franchement.
Pourquoi?
J'ai le droit, j'ai pas le droit.
Mais je dis pas que t'as pas le droit, on a le droit de tout faire dans la vie.
Ça me fait pas,
ça me fait pas du tout kiffer.
Bah, Zidane au Bayern.
Mais expliquez-moi, je pose trois fois les gars,
il y a aucun rapport. Parce que pour le coup, il y a un affectif avec le Real, il y en a avec la Juve, tu l'attends sur le banc de la Juve.
D'accord, et quand on en parlait à Manchester United, tout le monde trouvait ça.
Ah non,
United,
c'est ça.
Plus sexy, United.
Ah non,
pas du tout.
Pas pour moi, Zidane, c'est Juventus, équipe de France, Real Madrid.
Marseille, Real, Juve ou Bordeaux. Ou l'équipe de France. Voire Bordeaux, c'est pour faire kiffer, les gars.
On a une émission sérieuse, mais en tout cas.
Respecte un peu quand même.
Bah, je respecte. Vous avez Albert Guérin qui fait du très bon boulot, non? Ah non, il a encore fait un post Instagram la nuit dernière pour nous expliquer.
Mais c'est Mourinho, de toute façon.
Comment il allait battre. C'est quoi, c'est le BFC ce week-end?
Oui.
Il va battre le BFC. Mais, pour revenir sur Zidane, je sais pas s'il parle la langue.
Mais d'où le Ribéry adjoint, je pense. Ouais. Mais bon, on n'en est pas là.
Sincèrement, non. Franchement, après.
Zidane, entraîneur principal et Ribéry adjoint au Bayern.
S'il y va, on montera dans le train et puis on regardera, il n'y aura pas de soucis. Mais encore une fois, et aujourd'hui, tu me demandes de choisir.
Si Guardiola était sexy au Bayern, je sais pas. Moi, ça me. Ancelotti, un peu moins.
Nico, t'as une faculté à vouloir toujours
Il y a un manque de respect personnel avec
Moussiala,
je veux le voir avec, avec Wirtz, s'il le rejoint.
Oui, bah c'est
extraordinaire.
Oui, c'est
extraordinaire.
Enfin, Wirtz, on n'en est pas là encore. Hein. Puis Moussiala, on ne sait pas s'il va rester non plus. On est dans la spéculation.
Ah, Moussiala, c'est sûr, il va partir.
Là, on est des.
Total.
Ouais, vraiment.
Bon, je rappelle qu'il y a un an, on parlait d'un ticket de Thierry Henry et Nagelsmann au PSG. Donc voilà, il faut aussi prendre avec beaucoup de distance.
Quel genre. Rapport
Non, mais dans les tickets improbables. Dans les tickets improbables.
D'accord, ok.
Bon, voilà.
Très bien. En tout cas, bon, ça va commencer sur le chat, etc. Il y a des réactions, non?
Là, c'est la une de foot transfert quand t'étais gamin. Tu te souviens quand t'allais au
kiosque?
T'avais le foot transfert avec Jardel à l'OM. Trezeguet arrive à Paris, là, c'est pareil. Il fait foot transfert.
Le Bayern, ils vont reprendre Hansi Flick. Voilà. Non. Si, non. On prend
Hansi Flick, ils en parlent au Barça. Moi, j'aimerais bien voir ça. Bon,
ouais, non. Thomas... Alors, c'est moins sexy, je trouve.
Thomas Tuchel va aller au Barça, je pense.
Allez, Flo Maurice, ça fait beaucoup réagir. Hier, après avoir exprimé sa réticence à envoyer des Rennais aux Jeux Olympiques, pas d'accord pour en envoyer 3-4. Dans le même temps, Lens s'est dit prêt à libérer Eli Wahi en Didi Ouf. Paulo Fonseca aussi a pris la parole en conférence de presse. Il est carrément enthousiaste à l'idée d'envoyer Lenny Yoro, Lucas Chevalier, Bafolé Diakité. Pierre Sage aussi a dit aujourd'hui que l'OL était favorable à envoyer ses joueurs. Parce que, pour le citer, un Pierre Sage, cela serait dommage que les joueurs ne participent pas aux Jeux Olympiques à Paris. Pour certains, Rennes passe pour un club ingrat, mais toi, Jimmy, oui, toi, Jimmy, tu penses que c'est trop facile de taper sur le club français? Jingle Jimmy Brown.
Si j'écoute Docteur Jimmy contre le Barça, s'il revient, il sera en pleine forme.
Non, c'est l'inverse. C'est toi qui penses que c'est un crime de sortir Mbappé et tu me fais passer moi pour un malade en disant ouais, il a mis Mbappé de côté, etc.
Vous écoutez le podcast After Paris qui est en ligne.
T'étais chaud là.
Non mais oui.
Un bon moment avec Daniel, comme toujours.
Docteur Jimmy.
Il a plié Daniel. Écoutez le podcast After Paris.
En plus, ça le fait, Docteur Jimmy Mohamed.
C'est vrai, t'as raison.
Bah, appelé comme ça en fin de podcast.
Ah, d'accord.
Alors, Jimmy, on passe au JO. Bah, pourquoi je vais t'expliquer. Moi, j'ai écouté l'after hier soir, j'ai écouté Stéphane Guy. J'ai même écouté Jérôme tout à l'heure, dans l'excellent Rotten sans flamme, parler de patriotisme. J'ai lu beaucoup d'articles depuis la déclaration de Florian Maurice. Même certains m'expliquant que comment Florian Maurice, il peut, lui, qui a été libéré pour les JO à l'époque, qui a pu les jouer en 96, comment il peut ne pas accepter que se faire déployer la moitié de son équipe. Stéphane, hier, dans son propos, il dit, il évoque l'intérêt général. Moi, j'ai une question à poser. Qui est garant de l'intérêt général du football français? Si c'est pas la Fédération française de foot. Après ce qu'on vient de vivre à Tokyo, parce qu'on peut pas te taxer de pas aimer le foot au jeu. Nico, tu te souviens, on était ensemble. J'étais tanné pour aller voir France-Japon. On en a pris 4 à huis clos. On était au match. Tu sais ce que tu viens de vivre à Tokyo. Tu sais la désillusion que tu viens de vivre. T'aurais pas pu mieux organiser les choses. Je vais vous donner un petit exemple. Les Espagnols, ils ont fait une loi en 90. Ça date 2 ans avant les JO de Barcelone. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je sais pas. En tout cas, ils ont été champions olympiques en 92. Ils ont fait une loi qui obligeait les clubs à libérer leurs joueurs. Et en 92, ils sont champions olympiques avec des joueurs comme Canizares, Albert Ferrer, Guardiola, Luis Enrique, par exemple. Depuis, ils font 2 médailles d'argent. En 2000, avec la génération Puyol, Xavi, Raúl Tamudo, Capdevila, on les connaît. Et là, leur dernier JO à Tokyo. L'équipe, quand même, t'as Unai Simón, Cucurella, ils perdent contre le Brésil, Pau Torres, Ceballos, Pedri, Asensio, Yarzabal, Dani Olmo, pour ne citer que, il n'y a pas de problème. On parle de joueurs du Real, du Barça, d'autres gros clubs. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Voilà. Tu imposes, et les joueurs, ils viennent. Je sais pas si on aurait pu faire une loi, peut-être pas, je sais pas comment ça se passe, mais au moins la Fédé aurait pu imposer quelque chose. Je sais pas. Regarde au rugby, t'as eu la FFR qui a fait une convention avec la Ligue nationale de rugby, t'avais la Coupe du Monde en France, c'était cause nationale. Les gars, vous libérez vos joueurs plus qu'habituellement parce qu'on a une Coupe du Monde à domicile. En France, là, on a Philippe Diallo qui a dit, ah bah c'est super. Thierry Henry, il vient, donc Thierry Henry, vu que c'est Thierry Henry le sélectionneur,
tout le monde va venir.
Il va réussir à convaincre tout le monde, c'est formidable. J'ai retrouvé la citation de Philippe Dadiou dans le choix de Thierry Henry à la tête des espoirs. Il y a également cette capacité à pouvoir parler à des joueurs en activité ainsi qu'à des dirigeants de club et à les convaincre que pour que ces joueurs participent à cette compétition, cela fait partie aussi des éléments où Henry me semble avoir un apport essentiel. Donc lui pensait qu'il suffisait de nommer Thierry Henry à la tête de l'équipe de France olympique pour que les clubs ils se disent bon bah les gars,
attends, c'est Thierry les gars.
Florian Maurice, il va se dire tu te mets à la place de Rennes, par exemple, t'as Doué, Bourigeaud, Terrier, Truffert, Kalimuendo, potentiellement, on parle de ces noms-là. Tu peux comprendre quand même que Bourigeaud, si on ne lui impose rien, si la fédération, et par exemple, Moi j'ai posé la question ce matin, parce qu'on travaille, il y a des conférences de rédaction, etc. Au terme de conférences de rédaction, j'ai dit, est-ce que la Ligue aurait pas pu faire quelque chose, par exemple, la LFP, dire, on donne pas la licence club, si vous libérez pas vos joueurs, on se met d'accord, tout le monde devra libérer deux joueurs, obligatoirement, et il n'y a pas de discussion, on essaye de convaincre, machin. On m'a expliqué, la licence club, elle se donne sur des critères financiers, c'était pas possible, mais t'aurais pu quand même imposer une mesure coercitive, pas forcément une loi, pour au terme d'une discussion, dire chaque club va libérer deux joueurs, que vous le vouliez ou non. Maintenant, si tu te mets à la place de Florent Maurice, moi, je suis pas obligé. Pourquoi je vais me dépoiler? Pourquoi je vais faire ma préparation avec cinq joueurs en moins? Et en plus, Florent Maurice, il se fait tomber dessus, alors qu'il a dit quand même, deux joueurs, ok, je comprends. Moi-même, j'ai fait des jeux. Je comprends l'importance que ça peut avoir, mais ne me dépoilez pas la moitié de mon équipe.
Il a dit deux joueurs, moi, j'ai pas entendu.
Non, il a dit quatre joueurs.
Oui, voilà, il a dit, je vais pas déshabiller Paul pour.
Tu peux prendre un ou deux joueurs quand même.
Il a du problème, Jimmy. Si tu veux une loi, je pense qu'il faut plafonner. Tu peux pas non plus demander à certains clubs.
Mais rien n'a été fait. On a juste discuté. On a juste fait des petites réunions en se disant, en se tapant dans la main. Bon, les gars, vous libérez, vous êtes sympas. C'est les JO en France. Mais non, tu peux finir. Juste un truc, ouais. Le barrage, le quatrième de Ligue 1, il va jouer, on en parlait tout à l'heure, le tour préliminaire de Ligue des Champions. Match aller le 6 août, retour le 13 août. C'est ce fameux match à 50 millions d'euros si tu te qualifies en Ligue des Champions, t'es d'accord que la saison, c'est pas la même. Ouais. Finale du tournoi olympique le 9 août. Tu te mets à la place de Lille, par exemple, qui aujourd'hui peut prétendre à cette quatrième place. Tu leur enlèves, tu vas dire à Olivier Létang qu'il va jouer son budget pour sa saison. On connaît la situation financière du LOSC, qu'on en parlait. Tu vas dire, tu vas jouer sans Lenny Euro,
sans Chevalier,
sans Lucas Chevalier. Sans peut-être Bafodé Diakité, peut-être un quatrième joueur. Si on se dit que le au-dessus de 23 ans, ce serait Benjamin André, j'en sais rien. On peut l'imaginer aussi. Tu peux comprendre que les présidents de club, les directeurs sportifs soient pas emballés.
Après, Lenny Oro, il l'aura sûrement plus.
Tout ce que je dis, c'est que c'est un peu trop facile de taper sur les clubs. Qu'évidemment, il faut que tout le monde mette la bonne volonté. Et on veut tous que l'équipe de France olympique est une bonne équipe.
Ah bon?
Mais moi, je pointe. Oui, franchement, oui. Quand tu vois l'Espagne qui arrive à présenter des équipes, arrête, ça, c'est des JO à Paris. C'est sympa. Le seul truc, c'est que le président de la Fédé aurait dû mieux bosser, ils auraient dû mieux préparer leur dossier, ils auraient dû faire signer un papier à tout le monde et on ne serait pas encore en train d'avancer.
Moi, je veux bien sur les arguments, je veux bien si on discute. Mais moi, ce débat, on l'aurait pas. Ces discussions, même les médias, il y a 4 ans, on a envoyé une équipe en boîte cagette. Ça n'a dérangé personne. On a été ridiculisés et on est sorti au bout de 3 matchs et ça n'a dérangé personne. Il y a cette espèce de tropisme là, les jeux, tout d'un coup, le foot est devenu important parce qu'on va jouer chez nous. Mais on s'en fout. Je vous l'ai déjà répété, le foot aux JO, c'est on s'en fout complètement. À la rigueur, t'as le football féminin, mais là tout le monde est en train de
se dire à Paris,
oui, mais rendez-vous compte, ouais. Ces
alors
clubs,
pourquoi tout le monde vient pleurer maintenant en disant ah ils sont pas sympas,
mais moi je comprends les clubs, un coup à l'Euro, un coup à la Ligue des Nations, un coup à la Coupe du Monde, et là maintenant il faudrait se mettre à plat ventre parce que c'est les JO. Et alors qu'on n'a jamais performé, est-ce que vous avez le souvenir d'un grand match de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? T'as un souvenir?
Non, mais on veut, on
nous
veut.
A fasciné avec la fameuse génération dorée, les JO de 84 et tout. Bon, c'est le seul trophée que certains de ces mecs-là ont gagné. Arrêtons un peu. Je suis désolé. Arrêtons de se faire croire que les Jeux Olympiques, c'est que l'équipe de France de foot, on l'attend aux Jeux Olympiques. Évidemment, on a envie. Ça fera bien sur la photo. Bullshit. Ça fera beau sur la photo. Mbappé en finale au Stade de France. Mais on s'en fout.
C'est un échec pour ces mecs-là. Ils nous ont quand même vendu. Il y a 3 mois, il y avait quand même une de l'équipe, Thierry Henry,
Kylian Mbappé, tout le monde s'y met, hein.
Les Jeux Olympiques, la médaille d'or,
Philippe Diallo, le premier.
Et nous on est comptable de ça, nous aussi, les médias.
D'accord avec toi, mais si Philippe Diallo n'avait pas présenté l'objectif podium aux Jeux Olympiques, Thierry Henry va nous amener sur le podium des Jeux Olympiques, etc. C'est la fédération qui a fait ça. Mais si tu as ces objectifs-là, moi je peux entendre ton point de vue, mais si tu as ces objectifs-là, donne-toi les moyens de remplir ces objectifs. Les Espagnols ont réussi à le faire. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? C'est ça la question.
D'accord, mais il y a 4 ans, ça a dérangé.
Et c'est trop facile aujourd'hui de dire, ouais, les clubs jouent pas le jeu, les clubs sont pas sympas, t'entends Florent Maurice se faire allumer comme ça.
Et puis ils sont hypocrites. Et puis l'hypocrisie, elle est quand même à deux vitesses, parce que si cet été on se vautre au JO là, on va faire des débats nous ici. Ah, comment ça se fait? Comment on peut galvauder une compétition? Comme on l'a fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je me rappelle très très bien tous les débats sur Ripoll, sur comment ça se fait que on se fait balader
français,
par le Japon, etc. Donc l'hypocrisie, en fait, elle est totale. Il y a même les grands spécialistes comme Daniel Riolo, etc. Ils diront
qu'on aime taper sur l'équipe de France olympique quand elle se crache.
Ils diront en août, les espoirs c'est de la merde, les JO on bosse mal, etc. Pourquoi bon, les autres?
T'as voulu introduire Daniel, il va réagir, parce que Daniel est également là.
Attends,
bonsoir Daniel.
Excuse-moi, bonsoir.
Il a fait exprès, il t'a invité, bonsoir, t'as vu, bonsoir. Il est malin.
Non, parce qu'en fait, le problème c'est qu'il arrive à 45.
Depuis tout à l'heure, il valide Simon.
Et il en sourdine sur les gens, parle.
Mais non, mais Simon a parfaitement raison.
Merci Daniel.
Est-ce que tu racontes avec tes JO qu'au mois d'août on dira c'est pas bien ou c'est pas bien
et tu diras pas, t'analyseras pas toi.
Mais non, et qu'il y a 4 ans on disait que c'était pas bien. Ben oui, parce que même avec une équipe C ou une équipe D faite de mecs de Ligue 1, prendre les volets que t'as pris il y a 4 ans, de toute façon c'était pas normal. Mais donc que tu fasses ton équipe avec un ou deux joueurs, pas plus de chaque, tu t'essayes de faire une sorte de puzzle Ligue 1 et tu te démerdes avec ça. Mais avec ça, donne le maximum, personne t'en voudra. Après, si tu vas prendre des valises contre le Japon, le Mexique, le Honduras ou toutes les équipes de la Terre, évidemment, t'auras l'air ridicule.
C'était même pas une équipe de Ligue 1 à Tokyo. Là, c'est ce qu'on essaye de faire pour là. Mais
elle était pas si mauvaise, l'équipe de Ligue 1. Elle était pas si mauvaise. C'est juste qu'ils ont été bidons parce qu'ils étaient pas concernés.
Si t'en as rien à faire, t'en as rien à faire des Jeux Olympiques, toi.
Enfin, une fois que la compète démarre, je regarde avec les équipes qui sont en place. T'auras ceux qui auront réussi à convaincre certaines personnes de venir, t'auras ceux qui auront fait leur bricolage.
Il y a un juste milieu à avoir.
Mais tout est un bricolage dans cette histoire. Tout le monde s'est emballé avant, a vendu des trucs sans même savoir s'il y avait. C'est comme si toi, tu vendais des produits de ton supermarché sans même avoir vérifié si t'avais les produits dans la réserve.
Ça, je suis d'accord.
C'est que des mensonges.
Mais on nous a vendu.
On nous a banonné.
Mais on nous a vendu.
C'est pas parce qu'on te raconte des histoires que t'es obligé de les croire, Walid.
Oui, mais.
Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui décident, et quand les gens décident, ils disent, oh les gars, mais vous nous demandez quand même si c'est possible.
Ils doivent nous rendre des comptes quand même.
Moi, il y a
La fédération française.
Mais pourquoi ils devraient être rendus compte?
Parce que je sais pas, j'ai acheté mes billets.
Ils ont raconté qu'ils visaient un podium olympique, que avec Thierry Henry on allait réussir à convaincre tout le monde.
D'accord, alors ils ont le droit de le dire.
Ils ont aussi dit avec Thierry Henry on va réussir à convaincre tout le monde. Qu'est-ce que ça te coûtait d'installer tout le monde à une table, de faire une convention, de dire voilà les gars, vous signez deux équipes, deux joueurs par équipe.
Si tu dis que eux ont pas réussi à dealer, qui se sont pas entendus avec la ligue pour avoir, je sais pas, un contrat qui aurait pu prévoir un, deux mecs et tout, mais ça très bien.
C'est ça en fait.
De galvauder sur le fait que l'équipe qui jouera au JO, la critiquant, oui, en fonction de ce qu'il y aura, contre qui il joue, comment ça se passe, si le tournoi est intéressant, pourquoi pas.
Bah donc mais c'est pas prioritaire. On n'a pas rien à faire. Effectivement, vous n'en avez rien à faire.
Mais non,
moi, ça m'intéresse.
La question, c'est pas que t'en as rien à faire ou pas à faire, c'est qu'après, quand ça démarre, t'aimes le foot, t'as envie de regarder. Bah tu vois mais dans la hiérarchie de ce que je pense, l'équipe de 84 ou les équipes d'après, en fait, au final,
non,
quand tu fais le bilan.
Non, Daniel, tu t'en fous, Daniel. Non, mais laisse-moi terminer, Jimmy.
Pourquoi tu t'en fous pas?
J'ai jamais vécu des Jeux Olympiques en France. D'accord?
Et c'est justement,
c'est tous les 100 ans.
Et bien qu'il le dise. Il y a un effet Thierry Henry aussi.
C'est tous les 100 ans. J'aime bien Thierry Henry.
Qu'il le dise, c'est une cause nationale. Les Jeux à Paris, ça doit être une cause nationale. C'est lui qui le dit.
J'aime bien Thierry Henry.
C'est le président de la FED. Donc, donne-toi les moyens.
Non, mais laisse-moi terminer, Jimmy. J'aime bien Thierry Henry. Bon, en ce moment, c'est son travail, je comprends pas. Mais j'aime bien Thierry Henry. J'ai envie qu'il réussisse. D'accord? Ça me hype, ce truc. J'ai envie d'avoir une équipe compétitive.
Comme tu dis, c'est une hype. Tu l'as dit toi-même.
Oui, mais j'ai envie d'avoir une équipe compétitive.
J'ai le droit d'être dans la hype, j'ai le droit de pas l'être.
Mais t'as le droit, t'as tous les droits, mais j'ai envie d'avoir une équipe compétitive. Si c'est pour avoir, comme Simon vient de le dire.
De trois mecs au-dessus, de machin, de ceci, de cela. De toute façon, c'est pas c'est quoi le travail de Thierry Henry? Il va récupérer des mecs à quel moment? Pour préparer quoi?
Mais si tous les
sais très bien que ce sera même pas réellement. Toi qui te passionne pour le travail des coachs, tu sais très bien que ce sera même pas le travail de Thierry Henry, parce que imagine qu'il récupère trois mecs qui étaient à l'Euro. Ils vont finir le 14. Ils vont finir, imagine que ça va loin. Ils vont finir le 10. Allez, même si tu considères qu'ils vont pas en finale. Derrière, dans la foulée, une ou deux semaines après, sans prendre de vacances, ou peut-être avec une semaine, ils vont arriver. Ils auront pas fait de prépa. Ils auront pas bossé ensemble.
Mais je veux une équipe compétitive.
Mais l'équipe compétitive, c'est une équipe qui se prépare.
Mais toutes les équipes, l'équipe des JO,
pourquoi des fois t'as des surprises avec des équipes qui gagnent, on sait même pas d'où elles sortent et tout? Parce que t'arrives avec des équipes bricolées qui sont là que pour la hype. D'autres,
qui
se sont bricolées au dernier moment.
À chaque fois, c'est Brésil, l'Espagne, Argentine, c'est les grosses équipes quand même qui gagnent.
C'est les grosses nations qui gagnent.
C'est les grosses nations qui gagnent.
La façon dont elles vont se construire, ça va être très aléatoire.
Oui, mais pour tous, c'est le jeu. C'est le jeu des JO. C'est le jeu des JO.
Oui, mais donc, c'est bien un tournoi qui est très particulier.
Oui, qui est très particulier.
Qui ne récompense ne sera pas réellement le travail d'un coach, parce qu'il faudra qu'il fasse un puzzle un peu bizarre avec des mecs qui auront joué, pas joué ensemble, bon, qui se connaîtront à peine.
Non,
donc en fait vous devriez dédramatiser cette histoire et dire
on s'en fout.
Voilà, il ira comme il aura envie d'y aller. Voilà. On va regarder parce que ça peut nous faire kiffer au mois d'août.
On s'en fout.
De regarder un petit tournoi.
On va mettre un Prouzès en neuf et c'est très bien. Mais on s'en fout.
Arrêtons d'en faire une cause nationale.
Voilà. On a compris. Le foot,
on a compris.
À cause de la FIFA, du calendrier, de tout,
ça, je suis
de tous les intérêts qu'il y a.
On est tous d'accord là-dessus.
Tu ne pourras pas avoir une équipe ultra compétitive.
Mon seul point de la vie, c'était de dire ça, c'est trop facile de taper sur les clubs, de dire ils sont pas patriotes.
Le Brésil, ils en avaient fait une cause nationale. Tu sais pourquoi ils en avaient fait une cause nationale?
Oui.
Parce qu'ils s'étaient plantés.
Alors
qu'il y avait la déchirure et la blessure du 7-1.
Oui,
ils avaient dit, et pour ça que Neymar était hyper impliqué à fond en 2016 pour faire
il
ça.
Il n'avait pas pu être là contre l'Allemagne.
Il était arrivé avec sa bande et tout, et c'était devenu une sorte de consolation de la Coupe du Monde. Voilà, mais ils en avaient fait leur cause à eux.
Et c'était
beau
la victoire quand même.
Ça,
Allez. Ouais, mais c'est eux que ça regarde. Jimmy, ils ont battu qui? Ils ont fait quoi? Bah, au fond, c'est une histoire qu'on te raconte.
Allez, Daniel,
c'est un
terminé.
Mytho qu'on t'a raconté.
Voilà, pause. Dans un instant, le quiz de l'after. Tiens, j'ai comme la compo de France-Japon à Tokyo. Bernard Denis, Clément Michelin, Kaloulou, Cassie, ouais,
belle équipe.
Pembele, Beka, Touzard, ouais. Savani, Tovin,
ouais.
Gignac et Randal Colomoni.
Super,
et Randal Colomoni.
C'était super.
Il y avait moins de faire mieux avec ça quand même.
Allez, pause. Dans un instant, le grand quiz de l'after. Par Jérôme Thomas. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Olivier Jachour, avec Simon Dutin, avec Jimmy Brown. Vous écoutez RMC, Génération After. C'est l'heure du grand quiz de l'after.
RMC, le quiz de l'after.
Voilà, le grand quiz de l'after préparé comme tous les jeudis par Jérôme Thomas. Bonsoir mon cher Jérôme.
Bonsoir à tous.
J'accueille les deux candidats qui dont le vainqueur remportera un bomber shot.
Et Pascot.
Et le perdant est Pascot, la marque iconique new-yorkaise. Et puis le perdant remportera une casquette.
New-yorkaise, ils sont pas à Montreuil.
Ben si, mais... Voilà, pour Shot, ouais. À gagner ce soir.
Ouais.
Ludovic est avec nous, salut Ludovic.
Mise en valeur, Daniel.
Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
Salut Ludovic. Et bonsoir Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Salut Nicolas.
Les amis, un club français joue un quart de finale de Ligue des Champions ce soir.
PSG.
Il est belge, il a rien compris.
Ah merde, excusez-moi. Je m'intéresse au football féminin.
Un autre club français est qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions.
Lyon.
Quel est-il? Lyon. Vous êtes insupportable. Mais c'est pour les départager, pour que le mec choisisse.
Je ne pas les règles.
Bah, tu les connais, c'est tous les jeudis pareil. Ludovic, tu choisis quelle équipe?
Je peux faire le quiz.
Est-ce que tu choisis l'équipe Jimmy, Daniel? Ok. En face, l'équipe Simon, Walid, allez, avec Simon. Nicolas.
Allez,
c'est parti.
Je fais le quiz.
Première question.
On va faire un quiz parodé, là.
On y va, c'est parti. Premier quiz. C'est Chalon ou non Chalon?
C'est sûr, j'ai plus un style de non-chalant, c'est comme on dit, je suis pas très chalant.
Je vous demande de la discipline, s'il vous plaît, messieurs.
Très bien, très bien.
Discipline,
très bien.
On ne conteste pas les points. Pas merci, quiz, Nico.
Avez-vous été chalant ou non-chalant sur les matchs internationaux des derniers jours? Question de rapidité, tout le monde joue.
Moi, j'ai rien suivi.
T'as rien suivi. En espoir, trois bleuets étaient titulaires sur les deux matchs. Diakité, Koné et...
Audobert.
Non.
Manu Koné.
Doué.
Non.
Un joueur que t'aimes bien, Daniel.
Kifren Thuram.
Un joueur que t'aimes bien, tu l'as cité.
Un joueur du sud de la France.
Oui.
Du sud-est de la France.
Du sud-est de la France. Akliouche.
Akliouche.
Oh, non.
C'est là-bas.
Ça souffle.
Mais écoute,
monsieur Jamin, c'est
moi,
honteux.
Moi, le maître de la cérémonie, je souffle.
Il a soufflé, c'est honteux.
Moi, il est fou, ça.
Avec les lèvres.
T'as des preuves?
Ouais, non, mais je l'ai vu. Je l'ai vu à
la 1-0 pour la team Jimmy et
Daniel. Avant la première question, il dit il veut un quiz tranquille et le mec, il enflamme le quiz.
Walid, j'ai pas triché une seconde.
Mardi soir.
Il faut pas céder aux rumeurs comme ça.
Mardi soir, lors d'Espagne-Brésil, il y avait deux joueurs du Barça sur le terrain en début de match. Lamine Yamal et Rafinha.
Bien joué.
Bravo. Voilà, tu vois.
Bravo, Simon. Bravo, Simon. Bravo.
Voilà. Un partout.
Bien joué. Duel.
Il y a un complot là, il y a quelque chose.
Non,
il y a
duel des auditeurs.
C'est bon.
Duel des auditeurs. Sur ce match, justement, Espagne-Brésil, il y a un joueur du Barça qui est entré en cours de jeu. Qui est-ce? Un jeune joueur du Barça.
Gavi.
Très jeune joueur. Défenseur central.
Curti, je sais comment il s'appelle.
Allez, personne, c'était Cubarsie.
Cubarsie.
Toujours un partout. Allez, on enchaîne. Écoutez, ouvrez les micros, c'est pour tout le monde désormais.
Question pour tout le monde. Lors d'Angleterre-Belgique.
Oui,
Kane.
Quel joueur
Tillmans.
A du mal à prononcer Roland Courbis?
Hein? Mangala.
Maguire.
Il a joué, il est entré en fin de match, Volande.
Saka.
Il est belge.
Il est belge.
Doku.
Vertonghen.
Non.
Angleterre-Belgique. Il y avait le fameux 1-1-1-1.
Doku,
Jimmy,
Batshuayi.
Oui,
en fait, non, là, c'est Roland Courbis qui faut.
Voilà. Ça va, j'ai pas soufflé, on est d'accord.
Roland... Non, pas cette fois-ci, Nico.
Il y a un complot encore là. Non, non, mais j'ai pas compris. En fait, non, c'est Roland Courbis.
Question,
comment Roland l'appelle?
Batshuayi.
Michi
Batshuayi. Et le vrai Batshuayi.
Très mal formulé.
Question bonus pour Jimmy et Daniel. Est-ce que vous pouvez me l'épeler?
Bah, c'est facile.
Vous n'avez qu'une chance.
Mettez-vous, vous avez
peu moins.
4 secondes, non mais ils ont le privilège du point à porter.
S'ils se trompent, vous pouvez prendre le point.
B-A-T.
Attends, B-A-T, oui.
S-H-U-A-Y.
C'est bon.
Putain, c'est fort.
3-1 pour la team Ludovic.
On a fait des
synthés. Est-ce qu'elle est bien la question? J'ai remarqué que quand tu réponds pas, la question n'est pas bonne.
Elle est nulle.
Tiens,
c'est
qu'à dire.
C'est le projet Voltaire, sincèrement, un projet.
Question de rapidité. Question de rapidité. 7-0, score final du match.
Qui est ce joueur qui a inscrit un triplé? Tout le monde a vu ce match. Jordanie-Pakistan.
Al-Tabari.
Oh, c'est fort, oh, à ma droite.
Daniel, Jimmy Ludovic, 4
ans. Il est sur la zone Asie, Jimmy.
Dernière question de surprise. Premier tour des qualifs à la prochaine Coupe du Monde. Il y avait un match entre les îles Vierges britanniques et les îles Vierges américaines.
Ouais.
Qui a marqué? Les deux équipes ont fait match nul. Quelle est la particularité du match nul? Quelle est la particularité
du match nul? Les Vierges.
Match nul les Vierges. Match nul les Vierges. 0-0.
5-1. Voilà, c'est
deuxième quiz.
Le quiz. Le jeu de mots qu'il faut trouver.
Le quiz des intelligences. C'est parti.
Minimum de.
C'est un jeu d'occulte.
Si ça s'achetait au supermarché une intelligence, je pense que tout le monde en achèterait une.
En 7 secondes, Wirtz a inscrit le but le plus rapide encaissé par l'équipe de France dans son histoire.
Akan Sukur.
On va faire des. Ouais, excellent. On va faire des buteurs éclairs, d'autres buteurs éclairs. En 10 secondes, quel est le buteur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions?
Je le sais. Roy Mackay.
Ici, ah
il est là.
Oui, bien joué!
Bravo, Daniel!
Finis pas les questions donc maintenant.
Attends, mais moi, je vais la question.
J'avais déjà le sien, il l'a eu juste.
On peut dire que si la réponse est plus rapide également.
C'est la bonne réponse, c'est effectivement.
6-2.
11 secondes.
Michel Rio.
Akan Sukur.
C'est là!
C'est
pas 11
secondes! C'est pas possible!
C'est un quiz rapidité, on laisse pas faire la question. Et on anticipe quand c'est rapide, on anticipe.
Écoutez, question un peu différente. Il était dans le podcast After PSG mardi dernier. Il est en face de moi, c'est Daniel Riolo. En combien de temps il a dégainé? C'est le tout début de l'émission.
1 minute 30.
Attendez, on va l'écouter. C'est le record absolu de vitesse de craquage dans un podcast. Ouais, c'est très rapide.
Écoutez,
c'est parti.
Bon match de championnat, 12 points d'avance pour le PSG sur Brest, deuxième. Et c'est l'OM, quoi. Est-ce qu'on peut faire tourner pour un match comme l'Olympique de Marseille?
Mais moi, je pense que la qualité première de Luis Enrique, c'est de ne pas avoir d'équipe type, en fait.
J'ai le droit de m'en aller?
1 minute 30.
15 secondes.
1 minute 30. J'ai compris sur le podcast.
15 secondes.
Non, mais moi,
tu veux dire quoi?
Je veux la durée à partir de
20 secondes.
Quand il commence son sommaire, là.
15 secondes.
Donnez une réponse.
Pourquoi c'est vous qui répondez pas?
Non.
Et vous donnez combien?
Oh, c'est moins que 15 secondes. J'aurais dit 12 secondes.
Eh ben non, victoire. 14 secondes.
Merci, 14 secondes.
Allez, voilà.
Au-dessus, c'est perdu normalement.
On écoute la suite.
C'est pas au juste prix.
On continue. Troisième quiz. C'est encore un quiz des intelligences. C'est parti.
Minimum de jugeotes, ça s'achetait au supermarché une intelligence. Je pense que tout le monde en achèterait une.
Demain, derby.
Combien de questions encore?
Derby de Lille, tu vois. Il reste 2 minutes.
On peut savoir le score?
Il reste 5-3.
Il y a 7-3.
Ah oui, 7-3. 7-3 pour la scène, Daniel.
Jimmy Ludovic.
7-3, score de la première finale.
Allez, on y va.
Derby Lille lance demain.
Real Eintracht Francfort.
Je vous donne un club et vous devez me donner le club rival, celui qui fait.
Très bien,
le derby.
Excellent.
Strasbourg-Mulhouse, quoi.
Qui fait derby avec Rosario Central?
Newell's.
Ici, parfait, ça revient. Allez, dépêchez-vous, les gars.
On va le faire.
Citez-moi un des deux clubs qui dispute le derby de la lanterne.
Daniel, t'as pas le droit.
Crédit Genoa.
Qui l'a dit?
Oui, Nicolas, c'est chez nous, ça.
Tu veux en faire, Daniel? Allez. 7-5, ça revient, il reste 3 questions.
Allez, c'est maintenant.
Et qui fait derby avec le Wydad?
C'est Jimmy, il a dégainé. Mais bien sûr, largement. Mais de loin en plus.
Calme-toi,
qui fait?
Non,
c'est très
étonnant,
t'es pas entendu quoi, Lid?
Qui fait?
Allez, maintenant, réponse à 2 points.
Qui fait le derby avec le CF Monterrey?
Le Deportivo,
Tigresse. Bravo, on se fait voler.
Elle est décisive.
Citez-moi le nom complet d'un des deux clubs qui participe au Fla-Flu.
Flamengo.
Allez, c'est pour nous, merci, bonsoir.
Terminé, victoire de Daniel, Jimmy et Ludovic qui remporte
ce match. Bravo Ludovic. Si on enlève ton premier point, on a triché. Et Raja, on a égalité.
On a gagné facile. Non,
jouer et gagner sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott. Ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Voilà, c'est terminé. Merci Simon, merci Walid, merci Jimmy, merci
Jérôme,
Daniel reste là avec Stéphane Guy et Thibaut Jean-Grand. L'After est là jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous.